السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، en cette soirée du mercredi 23 Shawwal 1432 de l'Hégire, ce qui concorde avec le 21 septembre 2011, بإذن الله تعالى, nous allons continuer donc, nous sommes à la troisième partie, Inch'Allah ta'ala, de la lecture des fawaïd, de quelques fawaïd qui se trouvent dans le fabuleux livre de Sharh Bulugh al-Maram de l'éminent savant Cheikh Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah. Tayyib. On s'était arrêté une seconde inchallah ta'ala. On s'était arrêté On s'était arrêté, donc nous sommes toujours au deuxième tome. On s'était arrêté à la page 279. La dernière faïda où on a dit que يَجُوزُ لِلْمُصَلِّ il est permis au prieur أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي جَيْبِهِ qu'il rentre sa main dans sa poche, c'est-à-dire pendant la prière. لِإِعْطَائِهِ الْمِفْتَاحَ لِمَنْ سَأَلَهُ ذَلِكَ il est permis au prieur de faire rentrer sa main dans sa poche pour qu'il donne la clé à celui qui la lui a demandé. أو يطلب من الأهل أن يعطوه الصبي ليحمله إذا كان يصيح وأمه في المطبخ. Il a dit, ou bien, il est aussi permis au prieur de demander à sa famille, par exemple son épouse, de lui donner le bébé, le petit enfant, pour qu'il le mette sur ses épaules si il est en train de crier et de pleurer et sa mère se trouve dans la cuisine. Sa mère se trouve dans la cuisine. Donc ça, c'est la dernière faïda qu'on avait vue bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc aujourd'hui, inshallah ta'ala, toujours tome 2, toujours tome 2, une seconde, inshallah ta'ala, on va voir la page, page 279, tome 2, page 279. Une seconde, inshallah ta'ala, j'enlève le rouge à quelqu'un. Donc j'ai pas trouvé Tamar là, je vois qu'il est rentré mais je trouve pas dans la liste. Elle-même, si vous le voyez, enlevez-lui le raid. Elle-même, page 200, je disais page 279 aussi. Page 279 aussi. Que dit le Cheikh Rahimahullah? Que dit le Cheikh Rahimahullah? Il dit, يجوز, c'est important ça aussi, hein? C'est important. يجوز رفع اليدين في الدعاء بعد النوافل أو الفرائض إذا كان يفعل أحيانا ولا يتخذه سنة راتبة. Regardez ce qu'il dit. يجوز, il est permis. De lever les mains. Fait du'a. Lorsqu'on fait des du'a. Ba'd al-nawafil. Après avoir fait des prières surérogatoires. Ou al-fara'id. Ou bien même après avoir fait une prière obligatoire. À condition. Ida kana yif'alou ahyanan. À condition. S'il le fait seulement de temps en temps. Wa la yittakhidahu sunnatan ratiba. Et à condition qu'il ne ne mettent pas dans l'intention que c'est une sunna qu'il faut faire après chaque salat, et à condition qu'ils ne le fassent pas après chaque salat. Et c'est exactement ce que dit Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah dans son livre Zad Ma'ad et aussi dans Iratat al-Lahafan. Il dit que lever les mains pour faire les doigts après la salat, non, il dit, surtout l'obligatoire, le prophète alayhi sallam ne l'a pas fait. Mais il dit, rahimahullah, il dit, mais s'il ne l'a pas fait, ça ne veut pas dire qu'il l'a interdit. Il a dit, si jamais maintenant quelqu'un va lever les mains de temps en temps, de temps en temps, il n'avait pas dans l'intention de lever les mains, mais quand il a terminé la salat, il a dit, astaghfirullah, 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 salam. Par exemple, ensuite, il s'est rappelé une chose importante. Et par exemple, il a levé les mains, il a fait les doigts. Il a dit, Cheikh, rahimahullah, Cheikh Ibn al-Qayyim, mais aussi ici, Cheikh Ibn Uthaymeen, il a dit, c'est permis, à condition qu'il ne le fasse que de temps en temps, qu'il sache dans son fort intérieur que ce n'est pas une sunna ratiba qu'il faut faire tout le temps. Non. Je dis cela parce qu'il y a certains qui disent que c'est complètement interdit de lever les mains après la salat. C'est complètement interdit. Ils disent car le prophète alayhi sallam ne l'a jamais fait. Comme ça, ils disent. Non. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen et Ibn al-Qayyim rahimahullah disent que ça, c'est vrai, le prophète alayhi sallam ne l'a jamais fait, mais si quelqu'un le fait de temps en temps, non, ce n'est pas parce que c'est sunnah, mais parce que, en général, quand on fait des doigts, on lève les mains. Et là, j'ai envie de faire des doigts, ça n'a rien à voir avec la salat que je viens de faire, ce n'est pas attaché avec la salat. Il a dit, dans ce cas, c'est permis s'il ne le fait pas beaucoup, mais seulement de temps en temps. Voyez. Ensuite, il dit, لم تكن نعم لم تكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم توبيخ المخطئ. Il a dit, ce n'est pas dans l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam de quoi? De blâmer quelqu'un qui se trompe. Ce n'est pas dans l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam de blâmer quelqu'un qui se trompe. Et il a cité cinq exemples. Premièrement, par exemple, Allah dit takallama fi salat. Vous savez que le hadith de Muawiyah ibn al-Hakam, qu'il avait parlé dans la salat. Dans la salat, il a parlé. Il a dit à quelqu'un, yani irhamukallah, et ensuite il a dit, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là en train de me regarder ainsi? Donc il a parlé dans la salat. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, naam, ne l'a pas blâmé. Mais il lui a appris que dans la salat, on ne doit dire que, yani, ou bien lire le Coran, ou bien dire Allah. Il a dit, la salat, elle n'est pas faite pour ce genre de deux paroles. Deuxièmement, la personne qui a uriné dans la mosquée. La personne qui a uriné dans la mosquée. Vous connaissez tous son histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas blâmé. Mais aussi, les sahabas qui ont voulu le blâmer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a empêchés. Il leur a dit, laissez-le qu'il termine yani, ce qu'il est en train de faire. Ils l'ont laissé jusqu'à il a terminé d'uriner. Ensuite, le prophète lui a dit que yani, là, on est dans une mosquée et la mosquée n'est pas faite pour qu'on urine dedans. Mais c'est pour dire Allah et aussi le Coran. Troisième aussi, il a dit par exemple l'exemple de Allah dit Asra'a wa raka'a duna as-saf. Naam, il y a un sahabi très connu, radiallahu ta'ala anhu, qui s'appelle Abu Bakr. Ce n'est pas Abu Bakr Siddiq, mais c'est un autre qui s'appelle Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu. Celui-là fait, il est rentré dans la mosquée, il a trouvé les gens inclinés déjà, les prieurs inclinés. Ils étaient un peu loin, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est incliné et il a commencé à courir comme ça, en étant incliné, pour y aller joindre les autres. Quand il a terminé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Zadakallahu harsan. Te fasse te ramener, ne refais plus cela. C'est une preuve aussi que le le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette particularité de voir les prieurs et de voir derrière lui dans la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait cette particularité quand il était dans la prière. Bien sûr, en face de la Qibla, il voyait en même temps tout ce qui se passait derrière lui. C'est pour ça que des fois, alayhi salatu salam, des fois quand il terminait la salat, il disait, toi par exemple, il appelle quelqu'un, il lui dit, toi, pourquoi tu as retardé dans le rukou? Toi, pourquoi tu n'as pas levé ta tête quand on a levé la nôtre? Et comme ça. Subhanallah. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas blâmé cette personne qui s'est inclinée avant de rentrer dans les rangs. Bien au contraire, il lui a fait une dua. Il lui a dit que Allah azza wa jalla te rende plus soucieux. Zadakallahu khairan. Il lui a dit, lakin la ta'oud. Quatrième exemple, par exemple, alladhi jama'a fi Ramadan. Le sahabi radiyallahu ta'ala anhu qui a eu un rapport avec sa femme pendant le Ramadan, pendant la journée. Pendant le Ramadan, pendant la journée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, naam, ne l'a pas blâmé, mais lui a montré quelle était l'expiation bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Et le cinquième exemple, par exemple, la sahabiya, la compagnonne radiyallahu ta'ala, qui quoi? Qui avait les métroragies, et qui avait de fortes métroragies, et qui croyait que la femme, quand elle a les métroragies, elle ne fait pas la prière. Et elle est restée comme ça, à chaque fois qu'elle avait les métroragies, elle ne faisait pas la prière. Ensuite, une fois quand elle a peut-être douté, et elle a demandé au prophète, qu'elle avait les métroragies, comment qu'elle devait faire, il lui a montré que une femme, quand elle a les métroragies, hein, elle se lave et elle fait la prière normalement. Juste qu'elle a la permission de, par exemple, de grouper entre deux salates. Mais sinon, elle doit prier à chaque salate et faire le wudu pour chaque salate, au moins le wudu. Sinon, si elle se lave pour chaque salate, ce serait mieux, mais c'est un peu difficile. Non. Donc, vous voyez cinq cas où cinq personnes se sont trompées et aucune d'elles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a blâmé. Par contre, comme il a dit dans le hadith authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani rahmahullah, dans Sahih Al-Jami', il a dit, innama bu'ithtu mu'alliman. Il a dit, Allah Ta'ala m'a envoyé comme enseignant. Enseignant, subhanallah. C'est ce qu'on doit bien mettre entre les yeux. Nous, on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme enseignant. Donc moi, je voudrais aussi enseigner aux gens et ne pas les blâmer, mais leur enseigner. Non. Est-ce que vous m'entendez bien? Alhamdulillah. Taïeb, autre chose, Inch'Allah Ta'ala, une seconde, je cherche. Non. Dans la page 296, Alhamdulillah, dans la page 296, le Cheikh Rahimallah dit, يجوز, écoutez bien, يجوز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك. Il dit, il est permis de s'affilier à sa mère. En islam, on s'affilie à son père. Udruhum li abaihim. Ça, c'est ça la règle. Il a dit, mais il est permis de s'affilier à sa mère, à condition, il a dit, إذا اشتهر بذلك. Il a dit, si, maintenant ça s'est répandu, ça s'est propagé, que il s'est affilié à sa mère et que on l'appelle avec le nom de sa mère, il a dit, walam yadhrab anhu, à condition que cette personne, premièrement, ça s'est propagé d'elle, et deuxièmement, elle n'est pas contre. Cette personne n'est pas contre qu'on l'appelle ainsi. Ensuite, il a cité le qui, le cas de qui, le cas de Abdullah ibn Ummi Maktoum, très connu, sahabi très connu, Abdullah ibn Ummi Maktoum, l'aveugle, radiyallahu ta'ala anhu, qui faisait l'adhan au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment qu'il s'appelle? Abdullah, son prénom c'est Abdullah ibn, fils de qui? Fils de Ummi Maktoum, fils de la mère Maktoum. Donc Abdullah, le fils de la mère Maktoum. Donc, il a dit, pourquoi le prophète ne lui a pas dit, il faut t'affilier à ton père. On va t'appeler Abdullah Bnou et tu nous dis le prénom de ton père. Mais le prophète Sarsom l'a laissé. Donc, c'est quoi? C'est yani, une permission. Il a dit à condition, comme j'ai dit, que, yani, disons deux conditions. La première, que khlas, ça s'est répandu entre les gens. Et deuxièmement, que la personne n'est pas contre. Et il a cité le cas aussi de Abdullah ibn Buhayna, un sahabi très connu. Abdullah, fils de qui? Fils de Buhayna. Buhayna, c'est quoi? C'est un prénom féminin. Comme on dit Abdullah ibn Aisha, Abdullah ibn Karima, Abdullah ibn Fatiha, comme ça. Non. Et il a cité aussi le cas de, très connu, de la tête des hypocrites. La tête des hypocrites, c'est qui? C'est Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah, c'est son prénom. Ibn Ubay, le fils de Ubay. Ubay, c'est son père. Ibn Salul. Et Salul, c'est sa mère. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. La tête des munafiqin, ou l'ayyadu billah. Ça, donc, c'était la page 296. Donc, des fois, hein, des fois, il y a des prénoms ou des surnoms, quelque chose comme ça, qui quoi? Qui se répandent et se propagent. Ensuite, c'est trop tard de corriger. Ça arrive. Là, ça s'est répandu, c'est trop tard pour essayer de corriger. Je donne l'exemple de... le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait, comme dans Sahih Bukhari, il disait, Ana ibn Abd al-Muttalib. Ana ibn Abd al-Muttalib. Ana al-Nabi wa la Kadib. Ou bien le contraire. Ana al-Nabi wa la Kadib. Ana ibn Abd al-Muttalib. Donc il dit que il est le fils de qui? De Abdullah de ibn al-Muttalib. Abd al-Muttalib. Il est le fils de Abd al-Muttalib. Abd, le serviteur. L'esclave de qui? De Mutalib. Un Mutalib, ce n'est pas Allah. Ce n'est pas un nom d'Allah. Donc, on ne peut pas dire Abdul Mutalib. On doit dire Abdullah, Abdurrahman, Abdkada. Mais ce n'est pas Abdul Mutalib. Mais, yani, ça, bon, on dit c'est trop tard. Abdul Mutalib, c'est connu, c'est classe. Yani, dans toute l'Algérie, on l'appelait ainsi. C'est un peu difficile hein, de lui corriger son nom. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que je suis. Hein, de son fils, Naam. Donc, parce que c'était son grand-père, Naam. Et je citerai aussi, par exemple, l'exemple de. Par exemple, vous savez qu'en islam, les noms, ou les prénoms, qui ont des. Où on sent qu'il y a la thèse qu'il y a, ne sont pas permis. Par exemple, c'est interdit en islam, par exemple, de s'appeler Iman, de s'appeler Ihsan. De s'appeler par exemple Shamsuddin, Taqiyuddin et des choses pareilles. Par exemple, là, ça rentre dans la tizkiya, Nouruddin, la lumière du din. On l'appelle Nouruddin, la lumière du din. Alors que peut-être c'est quoi? Peut-être c'est lui, yani, l'obscurité du din. Il ne sort pas, par exemple, du baroul ayyadou, les ténèbres du din. Al-Muhim. On a demandé à Cheikh l'Islam, parce que même lui, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah a dit que c'est interdit. On lui a dit, mais toi, tu t'appelles, ou là on t'appelle Taqiyuddin. Taqiyuddin, c'est plus grave. Taqi, ça veut dire pieux, religion. Taqiyuddin. On lui a dit, toi tu dis que c'est interdit, alors que toi, tout le monde sait que tu t'appelles Taqiyuddin. Il a dit, c'est vrai. Il a dit, mon grand-père ou ma grand-mère m'a appelé ainsi, et... Ça s'est répandu, propagé, de sorte que je n'ai pu et je ne peux rien faire pour changer cela. Non, je ne suis connu que par Taqiyuddin. Tu dis pas Taqiyuddin, on ne va pas me reconnaître. Non. Voyez. On va ajouter encore certaines choses, Inch'Allah Ta'ala. Attendez, je cherche quelque chose plus ou moins importante. Voyez. Dans la page 399, dans la page 399 le cheikh rahimahullah dit. Il a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant des femmes, le jour de l'Aïd, qu'elles devaient aller au Moussallah pour la prière, pour yani, quand il y a la prière de l'Aïd, elles doivent sortir et aller au Moussallah. Il a dit même, celle qui n'a pas de djilbab, que sa sœur lui en prête, etc. Il a dit, parce qu'elle, pour qu'elle assiste, il a dit à cette da'wa et à ce khayr et à ce prêche, etc. Ensuite, il a dit à la fin, wa yahtazil al-huyyad al-musalla. Il a dit, et celle qui ce jour-là on les monstrue, alors qu'elle évite, s'éloigne un peu du musalla. Musalla, c'est l'endroit où on fait la prière de l'Aïd. Le cheikh dit, cette phrase, qu'elle s'éloigne, que celle qui ont les monstres s'éloigne du Moussallah, il a dit, il y a une preuve dedans, que quoi? Que le Moussallah de l'Aïd, hein, a le même statut que la mosquée. Non. Parce qu'il a dit, il lui a donné, il lui a donné un de ses jugements. C'est-à-dire, il a donné au Moussallah un des jugements de quoi? De la mosquée. Quel jugement lui a donné? La mosquée, non, pour Cheikh Ibn Uthaymeen, il est interdit à une femme qui a des monstres de rentrer dans la mosquée. Il a dit, le prophète alayhi salam a fait la même chose. Il a dit à celle qui a des monstres de ne pas rentrer dans le Moussalla, de l'éviter. Donc il a dit, il a donné au Moussalla un des jugements de quoi? De la mosquée. C'est-à-dire qu'il fallait l'éviter si on a les monstres. Il a dit, c'est un délil donc que quand on va à Salat l'Aïd, que les hommes et les femmes qui n'ont pas les monstrues, yani, c'est recommandé qu'ils fassent Tahiyyat al-Masjid. Ce qu'on appelle Tahiyyat al-Masjid. C'est recommandé qu'ils fassent deux rak'at avant de s'asseoir. Car quand on va dans un Moussallah pour faire l'Aïd, yani, c'est par exemple dans un stade. Beaucoup de gens, et plutôt, il y a beaucoup de divergences entre les frères yani, et les sœurs. On fait deux rak'at, on fait pas. Je dis, hein, d'une façon très simple. Si tu n'es pas de l'avis de faire les deux rak'at, tu t'assois directement. Tu dis, non, je ne suis pas dans une mosquée, je suis dans un stade, c'est un moussallah aujourd'hui, ce n'est pas une mosquée. Si tu es de l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, qui dit que le prophète Aslam lui a donné un jugement, de quoi? Il a donné un statut de la mosquée. Il a dit, les monstrueux évite le Moussallah. Les femmes monstruées évitent le Moussallah. Donc, je fais la prière de ce qu'on appelle de Masjid. C'est-à-dire, je fais deux rak'at, ensuite je m'assois. Sans faire de problème. Comme ça étaient les compagnons, radiallahu ta'ala, non. Ils étaient comme ça. Il leur est arrivé une fois, ils voulaient faire la prière en groupe, ils n'étaient pas dans la mosquée, ils étaient en voyage dans une forêt ou je ne sais pas où. Maintenant, pour faire la prière, il faut d'abord savoir où est la Qibla. Non. Quelqu'un a dit, elle est de ce côté. Un deuxième a dit, non, elle est plutôt de l'autre côté. Un troisième a dit, non, elle est de l'autre côté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun a fait la prière d'après l'endroit qui, pour lui, dans son cœur, désignait la Qibla. Et ils ont même mis des traces comme ça pour voir, il faisait nuit, pour voir le lendemain qui avait raison sur l'autre. Et ils ont trouvé que les trois ou les quatre n'ont pas fait la salat dans la Qibla. Non. Mais ce que je veux dire, personne de ces trois ou ces quatre personnes n'a obligé les autres à ce qu'ils le suivent. Personne n'a dit à l'autre, tu fais la salat dans la Qibla que j'ai choisi moi. Ni l'autre a dit à l'autre, non, au contraire, c'est toi qui dois faire la Qibla, dois choisir ma Qibla pour faire la salat. Chacun a prié dans la direction où il était convaincu. Et ils sont restés des frères, des ikhwafiddin, des tantes, des gens qui s'aimaient et s'entraînaient. Pourtant, la Qibla, c'est quelque chose de grave. On va diverger dans la Qibla, pour certains ou là, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de grave. On peut même dire tu es kef, tu n'as pas suivi la même Qibla que je suis. Mais les sahaba, radhiyallahu ta'ala anhum, avaient un cœur grand, et une poitrine large qui a accepté les divergences est essentiel. Yani chacun a fait des efforts et celui qui a yani, dit ou fait juste, Allah Ta'ala lui donne deux récompenses. Celui qui s'est trompé, Allah Ta'ala lui donne une récompense, mais il ne se sent ni insulté, ni bagarré, ni il se sent yani, plus parlé. Alhamdulillah. Donc c'est comme ça en général qu'on doit agir. Je vais à la salat al-musalla le jour de l'Aïd. Si je suis convaincu qu'il faut deux rak'at, je fais deux rak'at, je m'assois. Si je ne suis pas convaincu, je m'assois directement. Je ne dis pas à celui qui est à ma droite ou à ma gauche, pourquoi tu n'as pas fait les deux rak'at. Et lui, s'il a fait deux rak'at, moi je ne les ai pas faites, il ne me dit pas pourquoi il faut les faire. Seulement, c'est permis de, yani de faire, de, disons, de dialoguer pour apprendre. Non, je veux juste yani pour apprendre encore, pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir du in. Ma'ali, je voudrais te poser une question, par exemple, pourquoi tu n'as pas fait la rak'at? Ou là, je dis à celui qui a fait les rak'at, Ma'ali, je voudrais juste savoir, yani, tu t'es basé sur quoi pour faire les rak'at? Il me dit, voilà, je me suis basé sur telle chose. Je lui dis, moi, voilà moi, pourquoi j'ai pas fait, je me suis basé sur telle chose. Ah, barakallahu fi, jazakallahu, ça s'arrête là, alhamdoulilah. Non, mais je ne vais pas me disputer. C'était quelle page? C'était 399. C'était dans la page 399 où il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné au Moussalla un des statuts de la mosquée. Mais dans la page 402, il a été clair, il a dit Idan tu salla tahiyyatul masjid. Il a dit donc on fait tahiyyatul masjid. Ça, il l'a dit dans la page 402. Maintenant dans la page 403, le Cheikh Rahimahullah dit التواف يغني عن تحية المسجد بشرط أن يدخل المسجد الحرام بنية الطواف. Le Cheikh dit Rahimahullah, le fait de tourner autour de la Kaaba, يغني عن تحية المسجد, suffit يعني à la place de quoi? À la place de faire deux rak'at pour tahiyyat al-masjid. C'est-à-dire, si je rentre à la mosquée, yani al-haram, à la Mecque, avec l'intention que je vais tourner autour de la Kaaba, donc, c'est pas la peine de quoi? C'est pas la peine que je fasse tahiyyat al-masjid, na'am, pour m'asseoir. Mais, wa amma, idha dakhalahu lis-salat, mais maintenant, si je rentre à la mosquée, dans cette mosquée de la Mecque, avec la niya, l'intention que c'est pour faire la salat. Mon intention, c'est pour faire la salat, par exemple, ou bien assister à un cours, ou bien lire le Coran. Dans ce cas, le cheikh dit, وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَتَحِيَّتُهُ رَكْعَتَنْ كَغَيْرِهِ مِنْ مَسَجِدِ. Dans ce cas, تحيّة المسجد, c'est quoi? Je dois la faire avant de m'asseoir, بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى. Pourquoi? Car ma niya n'était pas de faire le tawaf autour de la Kaaba. Mais ma niya, c'était de m'asseoir dans la mosquée pour écouter un cours, ou bien lire le Coran, ou bien m'asseoir carrément parce que je suis fatigué. Dans ce cas, je n'ai pas le droit de m'asseoir, comme vous savez, dans une mosquée avant de faire deux rak'at. Mais si maintenant je rentre avec la niya que je veux tourner autour de la Kaaba, dans ce cas, si je tourne autour de la Kaaba, ce n'est pas la peine que je fasse les deux rak'at. Après avoir tourné, et cette fois, je peux quoi? Je peux m'asseoir, non, sans faire tahiyyat al-masjid. Autre chose, inshallah ta'ala. Non. Dans la page 395. Le Cheikh Rahimallah dit, écoutez ce qu'il dit, Eklo, Sab'i tamarat, le fait de manger sept dates. Non. Min ajli adami ta'thiri summi aw sihr. Pour que le poison ou bien la sorcellerie n'ait pas d'influence sur moi. Alors vous connaissez le hadith que celui qui mange cette date, que yani, pendant cette journée-là, yani, ni le poison, ni le sihr, ni la sorcellerie ne peuvent l'atteindre. Il a dit, Cheikh Rahimallah, les sept dates, pour moi, يعني بور لو شيخ يدي ليس خاصا بتمر العالية. لو حابي تاسيتي كو دي سيت دات ايتي سيت دات دو العالية. العالية سي ان اندروا دو كوتي دو ميدين جو كوا. نعم العالية سي ا بو بخي 7 كيلومتر دو ميدين. Il a dit, pour moi, d'après Cheikh Ibn Uthaymeen, ce n'est pas une spécificité. Ce n'est pas obligatoire que les sept dates soient de l'endroit Hada al-Aliya. C'est-à-dire, cette date, d'où qu'elles viennent, elles permettent, ou là, elles l'éloignent, l'influence du sihr et l'influence du poison. Ça c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, car d'autres disent que les sept dates doivent venir spécialement de l'Aliya, de cet endroit de Médine. Naam. Cheikh Ibn Uthaymeen dit non, l'essentiel c'est sept dates bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tayyib, autre chose inshallah ta'ala. Naam. Une faïda importante bi'idhnillahi ta'ala, page 405. Ensuite je dis aux admins, si j'oublie, rappelez-moi. J'ai quelque chose à dire à propos de quoi? À propos d'une faïda que j'ai dit dans le premier cours. Inch'Allah, rappelez-moi que je vous dise quelque chose que j'ai entendu sur le site. Al-Muhim, le Cheikh Rahimallah dit Istiqbalu al-Qiblati lahu arba halat. Le fait de se mettre en face de la Qibla, le fait de se mettre en face de la Qibla a quatre statuts. Le fait de se mettre en face de la Qibla a quatre statuts. Un, premier statut, obligatoire. C'est-à-dire que des fois, c'est obligatoire de se mettre en face de la Qibla. Deux, muharram. Des fois, c'est interdit de se mettre en face de la Qibla. Trois, mustahab. Des fois, c'est recommandé de se mettre en face de la Qibla. Dans certains cas. 4. Khilaf al-awla. Et des fois, naam, c'est décommandé de se mettre en face de la Qibla. On va citer, inshallah ta'ala, les 4 cas bi'idhnillahi ta'ala. Premier cas où le fait de se mettre en face de la Qibla est une obligation. Par exemple, dans la salat. Si maintenant, je sais que la Qibla se trouve dans telle direction et que je ne me mets pas dans cette direction, celle de la Qibla, et je vais faire la prière, ma prière est nulle. Je me fatigue. Il vaut mieux ne pas la faire. Non. Entre parenthèses, sauf si j'ai des excuses. J'ai des excuses. Je sais que la Qibla, c'est un peu, par exemple, vers ma gauche. Quand je suis assis maintenant, c'est vers ma gauche. Mais je ne peux pas tourner à gauche. Non, j'ai un torticolis, ou bien je suis malade, ou bien je suis figé, comme ça. Je ne peux pas bouger. Non. Bon, je ne parle pas des excuses. Je parle en général. La Qibla, non. Donc, c'est obligatoire de se mettre en face d'elle quand c'est la salat. Voyez. Reste à dire que pour Nafila, si on est sur une monture, que ce soit un âne, une mule, un cheval, ou bien une voiture, ou bien une moto, ou bien, ça ne devient plus obligatoire. Ça ne devient plus obligatoire de faire la salat dans une voiture, salat nafila, la qibla ne devient plus obligatoire. Mais il serait mieux, disent les savants, il serait mieux de quoi? De dire Allahu Akbar du côté de la qibla. Ensuite, de ne plus yani, se conformer à la Qibla. Ensuite, yani, je suis la direction de la monture sur laquelle je suis. Non. Donc, le fait de se mettre en face de la Qibla a quatre statuts. Le premier statut obligatoire. Obligatoire, c'est dans la salat. Deuxièmement, Muharram. Quand est-ce que c'est interdit de se mettre en face de la Qibla? Quand est-ce que c'est interdit de se mettre en face de la Qibla? C'est par exemple quand on fait ses besoins, ou bien on uriner en face de la Qibla, si on la voit bien sûr, ou bien faire ses besoins, c'est interdit, c'est haram. On a même des péchés. Reste maintenant s'il y a une barrière entre nous et la Qibla. Par exemple, moi ici, là où je suis à Blida, par exemple, voilà, la Qibla est en face de moi. Mais entre moi et la Qibla, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des milliers de murs, des milliers d'immeubles, des milliers de bâtiments, des milliers de villes, etc., etc. Là, comme vous savez, il y a un ikhtilaf entre les ulama. Certains qui disent que même comme ça, c'est interdit de faire ses besoins ou d'uriner envers du côté de la Qibla. Et c'est l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Naam. Et certains, comme Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, disent que naam, c'est permis de faire ses besoins, ce n'est pas permis d'uriner. Et certains disent que yani, les deux c'est permis car yani, tu n'es pas en train de voir la Qibla. Il y a un mur et des barrières entre toi et elle. Et ce qui me plaît, c'est yani, ce qui me plaît, c'est un peu yani, l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Pourquoi? Il a cité d'abord le hadith d'un sahabi authentique. J'ai oublié le sahabi. Authentique, ce sahabi a dit, naam, quand on est allé au Chem, yani, la Syrie, l'Irak, tout ça, c'est le Chem, même yani, le Golfe, autrefois. Il a dit, on a trouvé des toilettes qui étaient en face de la Qibla. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Yani, on se retournait un peu pour éviter la Qibla et on faisait nos besoins. Et il a dit, quand on sortait, yani, nastaghfirullah. Naam. Donc, ce hadith du Sahabi, ça veut dire que ce Sahabi a compris que même quand il y a des barrières, etc., on doit essayer d'éviter. Et le Cheikh Al-Albani rahimahullah a cité un hadith, un deuxième hadith, beaucoup plus fort. C'est celui-là qui s'est donné à méditer et à penser. Quel est le hadith? Le hadith authentique. Où un compagnon a guidé des gens dans la prière. Et à un certain moment, ce compagnon a eu envie de cracher. Peut-être qu'il a eu quelque chose dans la bouche, ou je ne sais pas, ou une mouche ou là. Il a craché comme ça, en face de la Qibla. Il a craché en face, au lieu de cracher à gauche, ou bien de cracher dans son qamis, de lever le qamis vers la bouche et de cracher. Non, il a craché en face comme ça, dans la Qibla, il était en train de prier. Non. Alors, ces sahabas, les sahabas radiallahu ta'ala, sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dire voilà ce qu'il a fait. Il leur a dit, ne faites plus la prière derrière lui et ne le laissez plus vous guider. Ensuite, ce sahabi, il a yani, essayé de reprendre, de les reguider, n'ont pas accepté. Il a dit pourquoi? Ils lui ont dit, voilà ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur toi. Et c'est lui-même qui nous a dit de ne pas te suivre dans la salat. Il est allé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour confirmer. Il lui a dit, ya Rasulallah, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens ceci, cela? Il a dit, naam. Écoutez ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, naam. Il lui a dit, adhayta Allah wa Rasulahu. Adhayta, tu as lésé, tu as fait du tort. Même du mal, Allah et son prophète. Cheikh Al-Albani a dit, la salive n'est pas de l'urine. La salive, c'est quelque chose de quoi? C'est pas de l'urine, c'est quelque chose yani, de propre, de pur. Et celui-là, il a jeté quelque chose de pur en face de la Qibla, et le prophète Islam lui a dit, tu as fait du tort à Allah et à son prophète. Qu'en est-il pour celui qui jette de l'urine ou de ses excréments en face de la Qibla. Wallah, yani, c'est vraiment quelque chose, d'après moi, yani, de convaincant. Wallah, subhanahu wa ta'ala. Ici, il vient d'appeler à Salat al-Isha. On va se rencontrer, inshallah ta'ala, dans une demi-heure à peu près. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous laisse le micro, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. D'accord. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Est-ce que les questions sont prêtes et est-ce que parce qu'elles ont été classées par ordre. C'est-à-dire, on commence par celles qui ont rapport avec le cours, Inch'Allah ta'ala, le temps que je jette un coup d'œil. Le temps que je jette un coup d'œil sur ma boîte postale, pour vous lire un email qui m'est arrivé. Une seconde, Inch'Allah ta'ala. Donc, j'ai deux choses à dire. La première, voilà. La première, c'est Inch'Allah Ta'ala que, yani, des gens, c'est la deuxième fois qu'on m'écrit ça, que des gens qui sont en Égypte et qui n'ont pas accès au paltol. Parce qu'en Égypte, c'est pas comme en Algérie. En Algérie, alhamdoulilah, maintenant on a accès sur paltol, même avec des pseudos noirs. Et ceux qui sont en Égypte n'ont pas accès. Ils ont accès. D'ailleurs, je vais te lire, Inch'Allah ta'ala, le mail qui vient de m'arriver. Hein. Je vais te le lire, Inch'Allah ta'ala. Salam alaykoum, ya cher. Bailux ou InSpeak, c'est gratuit et Paltok est devenu très très dangereux. Cher, beaucoup de frères et sœurs sont tombés dans la fitna et même dans la zina, oulayadu billah. Il y a des frères qui m'ont rapporté des cas de frères et sœurs qui sont dans la fitna. Ils ne peuvent plus sortir de cette situation. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller sur Patok dans le salon de fitna. Wallah al-musta'an. Wallah al-musta'an. Tu dis, Barakallahu fikoum, de conseiller les frères et sœurs à chaque fois, car les gens prennent comme prétexte le cours de religion. Ça y est. Donc, vous avez entendu ce qu'a dit cette personne. Et c'est pas dans ce mail qu'il y a que Yanni ne peuvent pas accéder. C'est dans un autre assez ancien. Donc, moi j'ai confondu, c'est dans l'autre qu'on m'a dit que si on pouvait ouvrir InSpeak pour les gens de l'Égypte. Mais toi, tu dis que, alhamdoulilah, maintenant, ils ont accès. Donc, alhamdoulilah. Donc, je reviens à ce qu'a demandé la personne. Elle a demandé à ce que je donne bi'idhnillahi ta'ala nasiha. Donc, cette nasiha, je la donne d'abord à moi-même, je la donne à moi-même et à tous frères et sœurs qui m'entendent, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Plusieurs personnes rentrent des fois avec une bonne intention, ou bien tout le temps, avec une bonne intention, et, subhanallah, quand ils ne rentrent pas dans les salons où il faut, et ils rentrent juste pour jeter un coup d'œil là, ensuite ils disent, c'est juste par curiosité, ensuite ils disent, juste je vois ce qu'il va dire, juste je vois ce qu'il va lui répliquer, et, bi'adou billah, yani, ils peuvent tomber dans, yani, des choses graves. La personne a dit que plusieurs frères et sœurs sont tombés dans la zina. Moi, je n'ai pas vu de mes propres yeux pour dire zina. Et si j'avais vu, ça n'aurait pas suffi. Il faut qu'on soit quatre. Donc, cette personne, si c'est un frère qui a écrit ça, peut-être qu'un frère lui a raconté, lui a dit, voilà, je suis rentré dans le patoc et petit à petit, je suis tombé dans la zina. Peut-être c'est pour ça qu'il a témoigné. Ou alors, si c'est une sœur, peut-être qu'une sœur lui a raconté. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala yu'afiyana. Et ce qu'a dit ce frère est vrai. Je donne un conseil à tous mes frères et sœurs, à tous mes fils et filles, que de ne jamais rentrer ni sur le paltok, ni de se connecter sur Internet, si on n'a pas quelque chose de très important, comme par exemple j'ai un rendez-vous, si je suis un frère, j'ai un rendez-vous avec un frère pour lui parler, ou bien je fais un bahth, je fais une recherche, ou bien c'est pour écouter un cours. Non, c'est pour écouter un cours, par exemple. Ou bien, c'est pour, copier quelque chose. Ou bien, mais jamais de ne rentrer pour ce qu'on appelle naviguer. Non, ce qu'on appelle surfer. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais jeter un coup d'œil, je vais naviguer dans les sites, dans les salons, dans ceci, là. Tout le temps, à 90%, ça va tomber dans la fitna. Vous allez trouver le frère qui est masha'Allah, qui est sincère avec Allah. Il assure qu'il, masha'Allah, il n'est pas béligant, etc. Et il n'a jamais eu dans la tête qu'il voulait la fitna. Et voilà que le shaitan est venu, il lui a embelli la chose, et petit à petit, elle est tombée dans la fitna. Non. Comme on dit, ça commence juste un regard, ensuite un regard doux, suite un petit sourire, suite salam, ensuite comment tu vas, où est-ce que tu habites, et ça tombe la fitna ou l'iyadou billah. Donc pour éviter quoi? Pour éviter, je ne donne pas l'occasion à mon nefs et à mon shaitan qui me fasse des ouest-ouest. Je ne rentre pas du tout tant que je n'ai rien à faire dans ce bateau. Ni dans l'internet en général, si je n'ai pas quelque chose à faire. Et ne pas rentrer avec cette intention, tu peux avoir des hasanat et des ajr et des récompenses. Pourquoi? Car tu ne veux pas rentrer pour Allah. Pour Allah, tu ne veux pas rentrer. Pour ne pas tomber dans la fitna, pour ne pas yani, rendre Allah subhanahu wa ta'ala en colère contre moi. Et vous connaissez la règle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de la fitna que Men istashrafaha, istashrafatuh. C'est-à-dire que la fitna est loin de toi. Si tu veux, yani tu veux tourner dans les alentours là, elle va t'attirer vers elle. C'est pour ça que vous connaissez le hadith authentique dans le Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jour où vous entendrez que le Messie Dajjal est sorti, attention que vous alliez vers lui, car des gens de vous iront vers lui juste avec l'intention et par curiosité, juste pour le voir et le suivront. Et le suivront, pourquoi? Et à cause des grandes choubouettes qu'il a. Non. Donc, ces gens-là qui vont voir Messie Dajjal, ce n'est pas pour le suivre, ils sont pas fous. Ce sont des mouahidons, des musulmans, des pieux. Mais, ils ont quoi? C'est par curiosité. Juste pour voir ce qui se passe et ce que fait ce Messie Dajjal. Et voilà qu'arrivé là-bas, il voit ce qu'il est en train de faire. Il fait descendre la pluie, bidnillah. Les montagnes deviennent en or, bidnillah. Il tue quelqu'un, il le ressuscite, bidnillah. Alors là, tu as des choubouettes qui vont rentrer dans ton cœur. Tu vas dire, subhanallah, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Donc, je commence à avoir des doutes. Et si tu as des doutes, tu es devenu kafir, ou l'iyadou billah. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'abstiens carrément. Naam. Quand quelque chose me dit dans la tête, va te connecter, je dis, mais yani, à quoi ça sert? Je n'ai ni rendez-vous avec mon frère ou là, avec ma soeur, si je suis une soeur, ni je vais écouter un cours. Ni je vais faire des recherches. Quoi ça sert? Quoi ça sert de se connecter? C'est très 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 dangereux. Alors qu'en est-il le patok? Le patok, c'est vraiment l'un des plus dangereux quoi? Les plus dangereux il y a un programme peut-être qui existe sur l'ordinateur. Et puis autre chose, le pire et le comble. D'abord numéro un, vous m'entendez? Car j'ai vu quelque chose ici tourner devant moi. Est-ce que vous m'entendez? Le pire et le comble, c'est que le pire et le comble, c'est quoi? C'est que c'est sûr, Inch'Allah Ta'ala, qu'il n'y a aucun frère, aucune sœur qui, disant, Masha'Allah, c'est la fille qui aime les cours, etc., qui va rentrer dans un salon excusez-moi du mot, de pornographie. C'est pas possible. Mais le comble, on va rentrer dans un salon, Zahmad Islam, et qui se trouve dans section Islam, religion Islam. Et tu vas trouver là-bas des sœurs qui prennent le micro, des sœurs qui rient, des sœurs qui disent des blagues, des sœurs qui starfella qui draguent. Non, mais c'est là-bas que va tomber la fitna, ou l'ayadu billah, la musique, la yani, non, entre zama, frères et sœurs. Moi, pour moi, ces gens-là ne sont ni des frères ni des sœurs. Mais même si elle a le niqab, ce n'est pas une sœur, c'est pas vrai. C'est pas, qu'est-ce que ça veut dire, ce n'est pas une sœur? Ce n'est pas une vraie sœur, c'est une fausse. Il y en a plein, il y en a plein. Non. Donc, c'est de là-bas que commence la fitna. Allah subhanahu wa ta'ala. On va rentrer dans le vif du sujet, inshallah, maintenant. D'abord, on fait des doigts. Allah subhanahu wa ta'ala, yu'afiyana, Allah subhanahu wa ta'ala, yu'afiyana, Allah subhanahu wa azzawajal, yu'afiyana wa yu'afiyakum jami'an. Wa yu'afiyana wa yu'afiya awladana wa abna'ana wa banatina. Wa azwajina wa ummahatina. Autre chose, inshallah, importante, la fois passée. La fois passée. La fois passée, quand j'étais en train de parler, une seconde, Inch'Allah, on me demande quelque chose à la maison. Salam alaikum. Donc, d'abord, Naam, ça me rappelle aussi une autre chose. Muslim et Akh Mohamed, je voudrais vous poser une question. Chauffe, des cours, bien sûr, je viens de jeter un coup d'œil sur le site hier ou avant-hier. J'ai vu que les derniers cours dataient du mois de mai. Certes, j'ai pas, yani, j'étais malade, etc. Je me suis absenté une assez longue période. période. Mais je veux dire, où sont les deux ou trois cours que j'ai fait sur l'Aqida Safariniya? J'ai fait deux ou trois cours sur un nouveau livre qui s'appelle Safariniya. C'est en cours, Inch'Allah, Alhamdoulilah. Donc c'est en cours, Alhamdoulilah. Deuxième remarque. Quand je suis rentré dans le cours, dans le site, j'ai vu qu'il y avait le premier cours sur le Fawaid de Bulugh al-Maram. J'ai dit, je jette un coup d'œil pour yani, voir si c'est audible, si c'est compréhensif ou la compréhensible ce que je suis en train de dire. J'ai entendu la première faïda, j'ai remarqué une chose importante. Laquelle? Dans la première faïda, je parlais de la divergence des savants en ce qui concerne est-ce qu'on peut utiliser les ustensiles en or et en argent, yani sur le, yani les utiliser à part dans le fait de boire. Dans le fait de boire, dans les ustensiles en argent et en or, on a dit c'est interdit. Mais à part boire et manger, est-ce qu'on peut les utiliser ou pas? J'ai dit ce qu'il y avait comme divergence. Et j'ai donné l'avis de Cheikh Ibn Othaymeen rahmoullah que c'était permis. Et voilà le témoin. Voilà. Et j'ai cité le cas de Salama radiallahu ta'ala anha, qui avait un petit vase dans lequel il y avait des cheveux, un petit vase en argent, un petit récipient en argent dans lequel elle mettait les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors écoutez bien. J'ai dit, quand quelqu'un tombait malade, il allait chez elle, elle mettait un peu d'eau dans le récipient, mélangée avec les cheveux. Il lui donnait à boire, il guérissait, bi'idhnillah subhanahu wa azzawajal. Muslim, est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Est-ce que tu es d'accord avec moi jusqu'ici? Naam. Voilà, mais subhanallah, mais quand j'ai entendu ça, j'ai dit subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Musta'an. Une faute pareille, et je me suis dit, personne, ni un frère, ni une sœur, ne m'a envoyé pour me corriger et pour me dire subhanallah, Yachir. Vous êtes en train de citer un hadith pour dire que c'est permis de l'utiliser à part dans le manger et dans le boire. Alors que dans ce hadith, vous dites, elle mélangeait l'eau avec les cheveux et lui donnait à boire. Donc c'est permis de boire dans un récipient en argent. Alors si c'est permis, c'est vraiment contradictoire. Parce que le hadith, je le citais pour dire que c'était permis à part de boire et de manger. Est-ce que vous voyez la contradiction? Vous ne voyez pas. Mousseline, est-ce que tu vois maintenant qu'il y a une grande contradiction? Alhamdoulillah. Donc, si c'est possible, sur le site ou je ne sais pas où, d'enlever le mot boire. Parce que, en fin de compte, quand j'ai bien médité le hadith, et je suis même revenu au hadith pour le voir, c'est quoi dans l'histoire? C'est dans le hadith que, quand quelqu'un tombait malade, il allait chez Salama radiallahu ta'ala anha, il allait avec de l'eau. Il allait avec de l'eau. Elle mélangeait cette eau dans le récipient avec les cheveux, ensuite lui donner de l'eau. Lui donner, c'est-à-dire dans son verre, ou là, je ne sais pas avec quoi il a ramené cette eau chez elle. Ensuite, il buvait. Il buvait donc pas directement de ce vase ou là, de ce récipient en argent, mais elle lui donnait dans son récipient. Vous comprenez? Elle lui versait dans la tasse ou là, le verre où, avec lequel il est venu lui. Et lui, il va à la maison, il le boit, ou là, il le boit là, ou là, il se lave avec, ou là, Allahu alam. Donc, il faut voir comment. Non, mais pas tout le monde va comprendre ça. Tu dis, moi, je l'avais compris comme ça. Peut-être quelqu'un va dire, il va dire, c'est flagrant ici, c'est contradictoire. Donc, quand j'ai dit qu'il buvait, ça ne veut pas dire qu'il buvait directement, du récipient de Salama. Mais elle lui versait ça dans son verre, bidna. Voilà, faites quelque chose, Inch'Allah ta'ala, pour modifie bi'idhnillah ta'ala et tfaddal inshallah ta'ala pour les cinq premières questions. Tfaddal.
Donc les premières questions. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. Est-il permis dans la aqida de dire qu'Allah Ta'ala a créé lui-même ses propres actes, comme la parole? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah vous préserve et vous accorde El Firdaus. Dans quel cas une femme qui a commis la zina peut-elle avorter? Exemple, si cette femme sait que ses parents ne vont vraiment pas l'accepter, ne vont vraiment pas accepter cette grossesse, est-ce une raison valable pour l'avortement? Et y a-t-il d'autres raisons qui l'autorisent? Parenthèse d'avortement. Barakallahu fikoum. Question suivante. Assalamu alaikum. Allah jazakoum pour ses profits. Savez-vous si le prénom Maïsara est aussi féminin que masculin? Car je n'ai trouvé que des récits avec des hommes. Et dans le Coran, sourate al-Baqara, c'est écrit Maïsaratu. Mais je sais que des prénoms masculins s'écrivent aussi avec un ta marbouta. J'envisage d'appeler mon enfant comme ça, Inch'Allah, et j'ai peur de lui donner un prénom masculin. Barakallahu fikoum. Il est ouvert, Inch'Allah, cher. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya cher. La question concerne la lecture de Sourate al-Fatiha derrière un imam qui récite très très vite quand c'est à voix basse. Que doit-on faire lorsqu'on prie derrière lui? Doit-on beaucoup se dépêcher au risque de mal prononcer afin d'avoir fini le Fatiha avant que l'imam ne fasse le rokor? Ou doit-on lire à notre rythme et faire le rokor avant d'avoir terminé la lecture de Sourate al-Fatiha? Barakallahu fikoum. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que l'invocation à dire avant un rapport entre époux change-t-elle quand la femme est enceinte? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. Et mon PV est ouvert, hein, cher.
Muslim, non, ça marche, barakallahu. Je n'ai pas compris la quatrième question. La quatrième. De la fête.
Non, cher, je la relis, Inch'Allah. Que doit-on faire lorsqu'on prie derrière la question de Sourate al-Fatiha derrière un imam qui récite très très vite quand c'est à voix basse? Que doit-on faire lorsque l'on prie derrière lui? Doit-on se dépêcher au risque de mal prononcer afin d'avoir fini le Fatiha avant que l'imam ne fasse le rokor? Ou doit-on lire à notre rythme et faire le rokor avant d'avoir terminé la lecture? Barakallahu fikoum. Tfadal cheikh.
Ça y est, pour la dernière question, avant, Inch'Allah, parce que je ne l'ai pas citée, je n'ai pas écrite, donc pour gagner un peu de temps, il n'y a rien de changé. Il n'y a rien de changé que la femme soit enceinte ou qu'elle ne soit pas enceinte. On dit la même doua, c'est-à-dire, Bismillah, Allahumma jannibna shaytan, wa jannib shaytan ma razaqtana. Et c'est seulement l'homme qui dit cela, bi'idhnillahi ta'ala. Pour la première question, Allah Ta'ala a créé ses propres actes, etc. On ne dit pas ça. Non, on ne dit pas ça. Allah Ta'ala n'a pas été créé et rien de lui n'a été créé. Bidna Ta'ala. Non, c'est lui, non, le créateur. Et tout l'univers et toute autre chose à part Allah a été créé. Toute autre chose à part Allah a été créé. Mais, yani, ça a vu, ça. Yani, ils ont ses yeux, ses mains, tout ça n'a pas été créé, car tout ça fait partie d'Allah Azzawajal. Et Allah est la création. C'est pour ça que je vais un peu vite pour donner aux autres le temps aussi de poser, pour que je réponde aussi aux autres. Pour la zina, personne qui a fait zina, non, si le bébé, enfin, ce qu'il y a dans son ventre, a dépassé les 4 mois, et on lui a insufflé, ça veut dire qu'Allah lui a insufflé l'âme, alors dans ce cas, dans tous les cas, c'est interdit. Dans tous les cas, c'est interdit. Sauf certains avis où c'est permis. Certains avis, comme on dit, chèvres, chèvres d'âme, avec lesquels il ne faut pas prendre. Mais si c'est avant le 4e mois, plus c'est nouveau, plus je viens d'apprendre que je suis enceinte, plus c'est nouveau, plus la gravité devient moindre. Plus ça commence, ça atteint le 40e jour, ensuite le 2e mois, le 3e mois, plus ça commence à s'aggraver. Si ça arrive maintenant, au jour où Allah Ta'ala va insuffler de l'âme, ça devient grave si elle le fait tomber, bi'idhnillahi Ta'ala. Non. Maintenant, si jamais cette personne, jamais cette personne. Yani son ventre, disons, a dépassé les 4 mois. Dans ce cas, elle devra m'écrire, Inch'Allah Ta'ala, yani personnellement, pour que je lui réponde personnellement, Inch'Allah Ta'ala. Pour Meysara, le prénom Meysara, Naam, je ne sais pas, j'ai des doutes que ce prénom yani, est aussi féminin, j'ai des doutes. Mais puisque je ne suis pas sûr, je dis à la personne, donne-moi le temps, Inch'Allah Ta'ala, de chercher pour te rendre la réponse, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours. Alors je vais le noter, Inch'Allah Ta'ala, voilà. Voilà. Pour la Fatiha, la quatrième question, pour la Fatiha, pour ceux qui sont convaincus qu'il faut lire la Fatiha derrière l'imam, il faut la lire hein, en allant un peu vite, si lui il va très vite, je vais un peu vite, mais à condition d'articuler. C'est pas de mâcher les mots. J'articule normalement, mais je vais un peu vite. Mais si l'imam s'incline, classe, je n'ai plus de responsabilité. C'est lui qui ne m'a pas donné le temps de terminer. Donc, je m'incline et je ne termine pas la Fatiha et je suis excusé. C'est comme ça. Non. Le prophète, quand il a dit qu'il fallait lire alayhi salam, le Fatiha, ça veut dire que c'est dans le cas où il te donne l'occasion. Mais si l'imam va très vite, je ne peux pas lire, c'est lui qui va endosser pour moi, bi-idhnillahi ta'ala. Ça sera valable pour les autres questions, Inch'Allah ta'ala.
Donc avant de continuer, c'est pour vous indiquer que tous les comptes ont été activés, Inch'Allah. Tous les frères et sœurs peuvent poser leurs questions. La question suivante, Inch'Allah. Salam alaikum, Cheikh Anna, hafizakum Allah. Est-ce que la sorcellerie exercée sur une personne perd son effet à la mort du sorcier qui lui a jeté un sort? Y aurait-il des preuves du Coran et de la Sunna à ce sujet? Ou du moins une fatwa des savants, barakallahu fikoum. Faites des doigts pour un de mes proches qui est ensorcelé. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peut-on prier entre deux piliers? Sinon, comment faire lorsque dans les mosquées il y a des piliers? Barakallahu fikoum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-il permis pour une femme de se coiffer en ajoutant de la laine à ses cheveux? Barakallahu fikoum. Question suivante. Salam alaikum. Quelle est la limite du temps où l'on peut faire les rawatib de la Isha jusqu'au Fajr? Barakallahu fikoum. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que l'appel à la prière le jour de l'Aïd est interdit juste pour la prière de l'Aïd, les 2 rak'at, ou alors pour toutes les prières de la journée? Allah yajazikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, je répète, Inch'Allah, la première question. Salam alaikum, Cheikh Anna, hafizakum Allah. Est-ce que la sorcellerie exercée sur une personne perd son effet à la mort du sorcier qui lui a jeté ce sort? Y aurait-il des preuves du Coran et de la Sunna à ce sujet, ou du moins une fatwa des savants? Tfadal, Cheikh.
Voilà, il y a un mot dans cette question que j'ai pas bien entendu. Lorsque tu dis, est-ce que la sorcellerie perd ou la perd sous là, ce mot je n'ai pas bien compris, c'est pour ça que j'ai pas compris la question jusqu'à présent. Barakallahu fik.
Non, perd son effet du verbe perdre, cher. Perd son effet. Est-ce que l'effet de la sorcellerie s'en va en fait? Non, s'en va avec la mort du sorcier. Ou est-ce qu'il perdure? Tfadal, cher.
Non. Je ne connais aucun hadith, aucun verset, yani en ce sens qui dit que yani, le sorcier, yani, s'il meurt, que yani, sa sorcellerie va partir avec. Pourquoi? La sorcellerie n'a rien à voir avec le sorcier, sauf si c'est lui qui l'a faite. C'est lui qui a envoyé le djinn, oula oula. Non. Mais maintenant, lui, quand il est mort, ça ne veut pas dire que la sorcellerie va aller d'elle-même. Des fois, le sorcier, vous savez, le sorcier, il y a le sorcier, par exemple, qui ensorcelle avec les djinns, en travaillant avec les djinns. Il y a le sorcier qui ensorcelle, par exemple, avec, disons, une sorte de poison. Une sorte de poison, il va mélanger la queue d'une grenouille avec je ne sais pas quoi. On appelle ça poison. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen dit, les sorciers, on a deux sortes. Celui qui travaille avec les djinns, celui-là, on doit le tuer, en islam. Et l'autre qui ne travaille pas avec les djinns, seulement le doigt, etc., celui-là, il y a ta'zer. Au lieu de le tuer, il y a le ta'zer. C'est-à-dire comment on dit ça? Peut-être on va l'emprisonner, peut-être. Moi, c'est ça, ta'zer, d'après ce que va voir le juge. Moi, maintenant, si c'est par exemple là, le sorcier a ensorcelé avec le djinn. Ensuite, le sorcier est mort. Là, maintenant, le djinn, ce n'est pas obligé qu'il parte de la personne. Il est là, toujours dans la personne, en train de garder le sihr. Ça lui plaît, si c'est une femme, il profite d'elle, ceci, cela. Mais c'est plus facile de le faire sortir, par exemple, si on fait une ruqya, parce que il n'a plus peur du sorcier. Le sorcier avec lequel il travaillait, il n'existe plus, il est mort. Mais si c'est la deuxième sorte, par exemple, le genre de poison, est-ce que moi, si, a'oudhou billah, je vais mettre du poison à quelqu'un, ensuite je vais mourir. Je vais mourir. Est-ce que le poison va partir de la personne que j'ai empoisonnée? Non. C'est quelque chose qui se trouve dans son estomac, dans son intestin. Donc ça n'a rien à voir avec ma mort. C'est ce que je sais. Bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Non. D'ailleurs, c'était la première question. Pour la deuxième question, prier entre deux piliers. Prier entre deux piliers est interdit en islam. Sauf si c'est dans la daroura. Si c'est comme ça, la Jumu'ah, masjid complet, il n'y a aucune place. Je ne peux pas prier dehors, c'est interdit, aucune place. Je prie entre les piliers. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith authentique, « Qata'a Allahu man qata'a saffan » que Allah Ta'ala coupe celui qui coupe quoi? Qui coupe une rangée, ou là un rang. Et les sahaba ont dit dans le hadith authentique, mawquf, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit « Kunna ». Kunna, ça veut dire au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, نطرد نطرد طردا كنا نطرد منها طردا يعني comment on dit نطرد on nous comment on cherche le mot en français le verbe طردني يعني ما disons presque expulsé يعني on nous on, quand on comment on a un élève on fait sortir de la classe il a dit on nous faisait sortir de la mosquée à cause de quoi? À cause de yani, ceux qui priaient entre les piliers. Ceux qui priaient entre les piliers, on les faisait sortir, pas de la mosquée, mais yani, d'entre les piliers. D'entre les piliers. Reste à dire, pourquoi c'est interdit de prier entre les piliers? Certains ont dit à cause yani, du rang. Du rang maintenant, il est coupé. Nous sommes trois ou quatre, ensuite il y a un pilier. Nous sommes cinq ou six, ensuite il y a un pilier. Alors que le hadith a dit que celui qui coupe. Il y a un rang, Allah Ta'ala le coupe. Et d'autres ont dit, c'est l'endroit où les djinns musulmans font la prière. C'est l'endroit où les djinns musulmans font la prière. Donc, on dit, c'est interdit de prendre, yani de leur prendre leur place. Comme c'est interdit, par exemple, toi, que tu prennes un os et que, par exemple, tu mettes de la souillure dessus. Sachant bien que c'est. Les aliments, les os, ce sont les aliments des djinns. Quand je dis les aliments des djinns, les djinns ne mangent pas les os. Mais Allah Ta'ala va les remplir de viande que nous, on ne boit pas. Pour toi, c'est un os. Pour le djinn, il est rempli de viande. Donc, tu as souillé sa viande, tu as souillé son aliment. La même chose, certains ont dit, on ne prie pas entre les piliers, car c'est l'endroit où les djinns viennent faire leur prière. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Pour la personne qui dit, est-ce que je peux me coiffer en ajoutant de la laine à mes cheveux, je dis, ce qui est interdit pour la femme quand elle se coiffe, c'est d'ajouter des cheveux et de faux cheveux pour tromper les gens, les duper et faire croire que ses cheveux sont, mashallah, longs de cette longueur. Mais si c'est de la laine ou autre chose, ou là, des papiers ou je ne sais pas quoi, ou là. N'importe quoi, un foulard qu'elle met à la place pour continuer ses cheveux, ce n'est pas interdit. Pourquoi? Car tout le monde voit que ce ne sont pas ses cheveux et que c'est juste de la laine. Alors, moi, je n'ai pas vu cette laine, Sauf si cette laine, yani c'est comme des cheveux et ça trompe les gens. Dans ce cas, ça devient interdit. Je parle comme ça car je n'ai pas vu cette laine qu'on met sur les cheveux si elle ressemble à des cheveux ou elle est visible comme quoi c'est de la laine. Si elle est visible, il n'y a pas de problème. Bidnillah ta'ala. Pour les rawatib, après les Isha, qu'est-ce qu'il y a comme rawatib? Il y a deux rak'at. Deux rak'at, deux rawatib après les Isha, que la plupart des gens appellent shafa. Ils disent shafa. Ces deux rak'at, tu as pour les prier jusqu'à minuit. Si c'est minuit, c'est sorti l'heure des rawatib. Car c'est sorti l'heure de la Isha. Donc c'est pas vrai que les rawatib perdurent jusqu'au fajr. C'est pas vrai. Car les rawatib marchent avec la salat. Et puisque c'est une salat Isha qui elle-même se termine à minuit, donc les rawatib se terminent avec elle, bi'idnillahi ta'ala. Enfin, pour la dernière question, l'appel à la prière du jour de l'Aïd est interdit et bid'a seulement pour la salat de l'Aïd. Maintenant, quand c'est salat al-dhuhr et asr maghrib isha et avant salat subh, on doit appeler à la prière et faire le adhan bi'idnillahi ta'ala. Wallahu azza wa jalla a'lam. Tafadhal.
Alors, question suivante. Salam alaikum, cher. Quand une personne signe un contrat avec des conditions à respecter pour avoir entre contreparties de l'argent et que pendant une période, elle a eu l'intention de ne plus respecter les conditions du contrat parce qu'elle ne voulait plus s'engager pour de bonnes raisons, et cela sans que l'autre partie ne le sache, est-ce que l'argent reçu est halal? Est-ce que l'intention de ne plus vouloir s'engager à respecter les conditions annule le contrat? Et surtout, chir, est-ce que l'argent que j'ai reçu est halal pour moi ou pas? Entre parenthèses, petite précision, cette intention de ne plus vouloir m'engager était dans ma période de réflexion. Et maintenant, je perçois toujours une certaine somme d'argent car je veux continuer à respecter le contrat. Barakallahu fikoum. Question suivante. Salam alaikum. Est-il préférable de ramener sa femme dans un pays musulman afin qu'elle prenne des cours et que les enfants en bas âge puissent commencer l'école pendant que le mari reste en pays de mécréance le temps d'économiser assez d'argent, ou est-il préférable que la femme reste et patiente avec son mari en terre de mécréance le temps d'économiser de l'argent? Question suivante. Salam alaikum, cher. Une dame que je connais s'est faite opérer à 20 km de ma ville. Une sœur propose de m'emmener en voiture, ce qui ferait 40 km aller-retour sans mahram. M'est-il permis d'aller lui rendre visite? Est-ce que je pêche si j'y vais, sachant que c'est une visite pour une malade? Barakallahu fikoum. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur demande si elle peut prendre un moyen de contraception, n'importe lequel, car elle est fatiguée moralement et physiquement. Est-ce autorisé dans l'islam? Voilà, inshallah, barakallahu fikoum. Question suivante, salam alaikum, hayakumullah. Voilà, cher, je suis un converti et je voulais savoir si quelqu'un de ma famille qui est kafir venait à mourir. Le fait que je ne peux ni faire la prière, ni suivre son cortège funèbre, est-ce qu'il m'est permis de rendre visite à ma famille dans la maison du mort? Quel est le jugement? Jazakumullah khairan. Tfadal, cher.
Jazakallahu khairan, si c'est possible de répéter la première. Barakallahu khairan.
Ah, monsieur, je répète, Inch'Allah. Quand une personne signe un contrat avec des conditions à respecter pour avoir en contrepartie de l'argent, et que pendant une période, elle a eu l'intention de ne plus respecter les conditions du contrat, parce qu'elle ne voulait plus s'engager pour de bonnes raisons, et cela sans que l'autre partie ne le sache, est-ce que l'argent reçu est halal? Est-ce que l'intention de ne plus pouvoir s'engager, de ne plus vouloir s'engager à respecter les conditions annule le contrat? Et surtout, cher, est-ce que l'argent que j'ai reçu est halal pour moi ou pas? Petite précision, cette intention de ne plus vouloir m'engager était dans ma période de réflexion. Et maintenant, je perçois toujours une certaine somme d'argent car je veux continuer à respecter le contrat. Non, donc, moi, cher, de ce que je comprends, c'est qu'il a accepté des conditions. Et entre-temps, il avait des doutes. Il avait des doutes, il ne voulait plus respecter ces conditions, mais apparemment, aujourd'hui, il respecte de nouveau les conditions. Et il dit, comme il ne s'est pas manifesté avant, est-ce que l'argent qu'il a reçu pendant sa période de réflexion, est-ce qu'elle est halal ou pas? Tfadal cher.
طيب ويسبر داكور tu peux inshallah ta'ala tu peux poster je commence donc inshallah ta'ala par la première question avant cela je lis ici wa an Uthman ibn Abd Allah ibn Mud qal arsalani ahli ila ummi Salama bi qadh min ma wa kana idha sab al insan ayn aw shay bu'itha ilayha maqsaba fa akhrajat min sha'r rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa kanat tumsiku fi juljul. Bon, je vois pas les points, il n'y a pas de points. Djudjul min fidda, fa khadaratu, lahu, fa shariba minhu, qal, fa talahtu fi djudjul faraitu, sha'arat hamra, ou al-Bukhari. Naam. Sema'tu Younes bin Maysar, venu lui yakoul, sema'tu un dardaj kou, sema'tu un dardaj kou, sema'tu un dardaj kou, yakoul. Tayyib, pour le deuxième hadith, pour le deuxième hadith, celui de Maysara aussi cité, Qala Sami'tu Younes, Ibn Maysara, Ibn Kada. Moi, je ne doute pas qu'il y a le prénom Maysara. Mais je dis, je ne sais pas si yani c'est féminin aussi. Ici, ça parle d'un homme ici, Maysara. Même celle qui a posé la question, elle a dit, je sais qu'il y a yani Maysara en homme. Mais elle cherche yani la femme. S'appelle Maysara. Donc deuxième hadith ne s'applique pas. On revient au premier hadith. Faraj min sha'ar wa kentum sikou fi djoul djoul min fidda ba khadakhtu lahu fa shariba minhu. Donc ici le hadith qu'on vient de me citer, Rawal Bukhari, naam, et elle dit que, yani, et si je ne me trompe pas, le hadith, je l'ai vu seulement, ça fait pas plus d'une semaine, biznaï ta'ala. Le hadith dit que, Salama, lui a mélangé, yani les cheveux avec l'eau. Ensuite, après lui avoir mélangé, il a dit, il a bu de cette eau. Le shariba minhu. Maintenant, je ne sais pas si c'est yani, clair à 100% que, quand elle lui a mélangé, il a bu directement du récipient, ou bien, yani, ça n'a pas été cité, mais elle lui a versé dans un autre. Allahu ta'ala alam. Ensuite, il faut dire aussi une chose, c'est que est-ce que ça, c'est yani, spécifique à cause des cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Mais, inshallah ta'ala, c'est un bon hadith, on fera inshallah ta'ala des recherches plus avancées, bi'idhnillahi ta'ala, na'am. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis revenu vers ce hadith, car il m'a semblé que Cheikh Ibn Uthaymin a dit, rahimahullah, qu'il avait bu. Je suis revenu vers le livre où il y avait, pour chercher bu. Non, ce mot bu, je ne l'ai pas trouvé. Mais on voit ici qu'il a dit qu'elle a mélangé le récipient, ensuite il a bu. Est-ce qu'il a bu directement du récipient? Allah subhanahu wa ta'ala alam. Al-Muhim. Ça demande, inshallah ta'ala, des recherches. Pour le contrat, à partir du moment où je me manifeste, c'est pas je suis en train de penser, est-ce que je continue pas. Mais à partir du moment où je me manifeste, l'argent me devient interdit. Par exemple, je donne un exemple très simple. J'ai mis un contrat avec quelqu'un, on a mis un contrat comme quoi, yani, disons, je lui prends ses enfants à l'école. Par exemple, chaque matin, je les ramène le soir avec ma voiture. Non. Ensuite, moi, j'ai eu dans mon intention d'arrêter. J'ai dit, j'arrête. Non. Mais je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas arrêté de lui prendre ses enfants et de les ramener. Dans ce cas, le contrat est toujours valide. Je n'ai eu qu'une intention. Une intention. Mais je n'ai pas arrêté. Ça ne s'est pas manifesté que j'ai coupé le contrat. Bi'idhnillahi ta'ala. Non. Pour l'autre question, femme, pays musulman, etc., qui dit que est-ce que c'est mieux de prendre sa femme vers un pays musulman pour qu'elle apprenne, etc., et moi je reste en France, etc. Je dis très vite, l'apprendre dans un autre pays pour qu'elle apprenne pour les enfants et ensuite faire la hijra, etc. C'est masha'Allah. Mais à condition de remplir les conditions. À condition, par exemple, que je la laisse pas seule. Si j'ai de la famille ou là j'ai mon grand-père, maintenant si je la laisse seule dans un appartement, c'est elle qui doit sortir, c'est elle qui doit acheter, c'est-à-dire elle-même peut tomber dans la fitna, étant loin de son mari, et lui étant loin d'elle, il est là-bas en France, dans la fitna aussi. Hein, dans ce cas, je ne conseille pas, si je la dépose là-bas, je vais la voir une fois tous les 15 jours ou là une fois par mois, d'accord. Si je la laisse là-bas, il y en a 6 mois, 1 mois, 1 an pour aller la voir, je ne conseille pas. C'est difficile aussi bien pour elle que pour lui. Sauf s'il la laisse, il y en a dans la famille, bi-idhnillahi ta'ala. Pour la zakat, attendez, troisième question. Ah, pas zakat, c'est 20 km. Pour la personne qui a dit que si elle pouvait aller 20 km pour rendre visite à quelqu'un, elle a compté 20 allées, 20 retours. On ne compte pas le retour, on compte seulement l'aller. 20 km, bi-idhnillahi ta'ala, pour moi, et si je me trompe, c'est de ma faute et de mon shaitan. Pour moi, ce n'est pas un voyage. C'est-à-dire que je peux aller à 20 km sans mahram, si j'étais une femme. Parce que ce n'est pas un voyage, bi-idhnillahi ta'ala, ou Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Mais on compte pas le retour. On ne dit pas 20 et 20, ça fait 40. On dit à 20 seulement kilomètres. Non. Pour la contraception, si une femme prend des choses, yani, contraceptives, c'est permis à condition que ça soit donné d'abord par le médecin, parce qu'on ne peut pas choisir soi-même. On peut tomber malade à cause de ces pilules, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça donne des varices, ça donne beaucoup de choses. Un moyen pour que ça soit choisi par un médecin. Et que ça soit avec l'intention que c'est juste pour le temps de se reposer un peu, ou bien le temps que les enfants grandissent, ou bien ceci, cela. Mais ce n'est pas avec l'intention que, yani, on est pauvre et on n'a pas d'argent et on ne peut pas avoir beaucoup d'enfants et il n'y a personne qui va les nourrir. Ça rentre dans la aqida. Ça veut dire que tu n'as pas confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, que chaque bébé qu'il crée, il va venir avec son risque. Tu n'as pas confiance. Tu dis non, celui-là, s'il vient, il va mourir. Personne ne va le nourrir. Ça rentre dans la aqida. Mais si on prend des pilules juste pour faire un espacement, pour que les enfants grandissent bien, ou là pour qu'ils apprennent le Coran, ou là pour un espacement, non, et ce n'est pas à vie, et après concertation du médecin, et après, bien sûr, c'est très important, après, si la personne est mariée, après l'accord du mari. Il faut que le mari soit d'accord. Pour la dernière question, quand quelqu'un a des parents qui sont koufars et qu'il meurt, non, vous savez que c'est interdit de suivre le cortège et que c'est interdit aussi de quoi? D'assister à l'enterrement. Mais ce n'est pas interdit de rencontrer ses parents et de leur faire les condoléances. Seulement dans les condoléances. Pas dire par exemple que puisse Allah ta'ala les faire rentrer au paradis, puisse Allah les agréer, puisse Allah. Non, on ne dit pas comme ça. Non, on dit, yani, il faut patienter, c'est une chose qui doit arriver à tout le monde, même les messagers mourraient, etc. Des choses pareilles. Mais on ne fait pas de doigts dans le sens de yani, qu'ils vont partir au paradis, etc. Non. Et ensuite, je conseille que lorsque je vais pour faire les condoléances, là, ce n'est pas une nécessité de s'asseoir et aller dans la maison avec les gens, etc. Essaye d'être très bref, ah, de ne pas dépasser 5, 10, 5 quarts d'heure. Inch'Allah ta'ala, les prochaines questions.
Alors, question suivante, Inch'Allah. Donc, c'est la question d'une sœur. Salam alaikum. Comment suivre l'imam en prière quand on ne voit pas ses gestes? Doit-on se fier à l'avis que nous suivons ou alors aux prières autour de nous? Entre parenthèses, position des mains après le recours. Question suivante, Inch'Allah. Salam alaikum, cher. Un frère m'a rapporté de son épouse qui a écouté un de vos cours des propos que vous avez tenus. Est-il exact que vous ayez affirmé que si l'épouse refuse un rapport charnel avec son époux sans excuse, l'époux peut priver celle-ci de nourriture? Si cela est vrai, pouvez-vous nous donner les preuves ou une explication? Par Kloofekom. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. J'ai lu une fatwa de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, où il interdisait la boxe en justifiant que ce sport était trop violent et qu'il était.
Smahli, je viens de te couper parce que il y a le téléphone qui sonne, c'est quelque chose d'important, inchallah, juste une minute. Salam alaikum. Donc j'ai entendu la deuxième question, celle qui parlait de refus de rapport. J'allais te dire de répéter la première quand tu allais terminer. Maintenant, il vaut mieux commencer avec la première et ensuite sauter à la troisième, bidnillah. Tafadhal.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pas de problème, cher. Salam alaykoum. Comment suivre l'imam en prière quand on ne le voit pas, quand on ne voit pas ses gestes? Doit-on se fier à l'avis que nous suivons ou alors aux prieurs autour de nous? Par exemple, entre parenthèses, position des mains après le recours. La troisième. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. J'ai lu une fatwa de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, où il interdisait la boxe en justifiant que ce sport était trop violent et qu'il était trop médiatisé. Est-il possible d'assister seulement aux entraînements, sachant qu'on tape sur un sac? Et est-il possible de s'entraîner entre frères si on se tape très doucement? VS, Cheikh, je m'appelle Nourdine. Sourire. Hafizakumullah. Je pense qu'il a dit ça par rapport au cours, Cheikh. Sur les prénoms. Question suivante. Assalamu alaikum. Quand on s'aperçoit après la salat d'une tache sur le vêtement qu'on n'a pas vu avant, doit-on recommencer la salat? Barakallahu fikoum. Question suivante. Assalamu alaikum, cher. J'espère, Inch'Allah, que vous allez bien. Une sœur s'est mariée, mais la dot n'a pas été fixée. La sœur ne savait pas que c'est elle qui devait fixer et ses parents n'ont rien demandé. Ils ont honte. Quel est le sort de ce mariage sans dot? Tfadal cher.
Non. Pour la première question, qui a dit, quand on suit et même on ne le voit pas, comment compter pour les gestes, comme par exemple, après le ruku'a, quand on dit Sami'a Allah liman hamida, je ne sais pas s'il a mis ses mains lui, yani sur la poitrine, mais il ne les a pas mises pour que je le suive, les limites. Est-ce que c'est comme ça la question? Est-ce que c'est ce qu'il veut dire, Muslim? Est-ce que c'est ce qu'il veut dire? Non. Alors je dis, suivre l'imam, non, est une obligation, c'est même une condition, mais pas dans les sunnahs. Pas dans les sunnahs, mais dans les choses obligatoires. Comme par exemple, s'il s'incline, je dois m'incliner. S'il se relève, je dois me relever. S'il s'assoit pour teshahoud, je dois m'asseoir. Et des fois, il y a des endroits où pour moi, ce n'est pas obligé de m'asseoir. Par exemple, je m'assois. Par exemple, je rentre, salatullah. Je les trouve dans la deuxième raka. Ils sont dans la deuxième raka. Je rentre avec eux. Ils sont debout. Quand on va s'asseoir, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire le teshahoud. Ils sont dans la deuxième raka. Pour moi, il n'y a pas de teshahoud. Je suis dans la première. Mais je fais teshahoud à cause de quoi? À cause de l'obligation de suivre l'imam. Donc l'obligation de suivre, c'est seulement dans ce qu'a cité le hadith. Il a dit, s'il s'incline, vous inclinez, s'il se relève, vous vous relevez, s'il se prosterne, vous prosternez. Mais ce n'est pas dans les sunnahs. C'est pour ça que si lui il prie sans mettre les mains, par exemple, sur sa poitrine, il les met sur ses hanches, moi je ne le suis pas. Ce n'est pas ça la sunnah. Moi je les mets sur la poitrine et lui, de. Et maintenant, c'est le contraire. Il a dit Sami'a Allah liman hamida. Et lui, il est de l'avis de Cheikh Ibn Baz, par exemple, rahimahullah, qu'il va mettre les mains sur la poitrine en cet endroit. Et moi, je suis de l'avis de Cheikh Al-Albani, que c'est peut-être bid'a même. Je ne suis pas obligé de le suivre. Ça, ce sont des sunan que chacun fait ou ne fait pas d'après la science qu'il a ou qu'il n'a pas, la conviction qu'il a ou qu'il n'a pas. Donc, tu n'as pas tu n'es pas obligé de voir l'imam, yani où il a mis ses mains, bi'idhnillahi ta'ala. Pour la deuxième question, la personne a dit que, yani d'après elle, elle a entendu que j'ai dit que si la femme refusait, attendez, un rapport à son mari, il lui refuse, yani il a le droit de lui refuser de manger. Ou est-ce que c'est le contraire? Est-ce que tu peux me reprendre la question de Fadl al-Sheikh?
Non, mon chéri, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Est-il exact que vous ayez affirmé que si l'épouse refuse un rapport charnel avec son époux sans excuse, l'époux peut priver celle-ci de nourriture? Tfadal, chéri.
Naam, c'est exactement comme a dit cette personne-là, et aussi j'ajoute, et vice-versa. Et vice-versa. Si mon épouse, naam, me prive de ce qu'elle vient de citer ici, la sœur, ou le frère, naam, sans excuse, bien sûr, j'ai le droit de ne pas la nourrir ce jour-là, car, naam, ce que je lui donne comme nourriture, c'est en contrepartie de ce qu'elle me donne. Et le contraire est valable, c'est-à-dire que si lui, il ne la nourrit pas, elle a le droit, comme dit Cheikh Ibn Othaymine, de ne pas aussi lui donner le rapport. Et ça, vous pouvez le lire très clairement dans le livre qui s'appelle Sharh al-Mumti'. Naam, Sharh al-Mumti' de Cheikh Ibn Othaymine, le passage où il parle du mariage et où il arrive à dire les droits entre les époux. Là, vous allez là-bas, j'ai pas ici chez moi numéro de page, etc. Là, et il dit ça carrément. C'est pour ça qu'il dit aussi, que, par exemple, j'ai fait un acte, l'acte de mariage, le contrat de mariage, ce qu'on appelle fatiha chez nous. J'ai fait le contrat de mariage les deux témoins, etc., avec une femme. Là. Maintenant, normalement, yani, on va, yani, comment on dit ça? On va consommer le mariage. Naam. Donc maintenant, tant qu'elle ne vient pas chez moi, même après le contrat de mariage, tant qu'elle ne vient pas chez moi, je ne suis pas obligé de dépenser pour elle. Pourtant, c'est ma femme. On a même le livret de famille. C'est ma femme. Si elle meurt, il y a même l'héritage entre nous. Mais tant qu'elle n'est pas chez moi, tant qu'elle n'est pas chez moi, donc tant qu'il n'y a pas de rapport, donc je ne dépense rien pour elle, ni je la nourris, ni je l'habille, ni rien. C'est pour ça que aussi Chirbin dit, par exemple, ma femme est chez moi. Maintenant, elle doit aller chez ses parents, par exemple, hein, sans me demander, par exemple, mon consentement. Je viens à la maison, je ne la trouve pas. Elle me laisse un mot, elle est allée passer la nuit chez ses parents, qui habitent juste en face, par exemple. Donc, cette nuit-là, hein, je ne suis pas obligé de dépenser pour elle, pendant toute son absence. Pourquoi? Parce qu'elle m'a privé de ce qu'on disait tout à l'heure. Et en plus de cela, elle a des péchés. Elle a des péchés d'être allée sans mon consentement. Ensuite, Cheikh Ibn Othaymine dit là, maintenant, si elle part avec mon consentement, elle va me dire, je vais aller chez mes parents pendant 3 jours. Elle n'aura pas de péché pour être partie avec mon consentement, mais je ne suis pas obligé de dépenser pour elle. Pourquoi? Car il n'y a pas de rapport. Je suis privé des rapports pendant tous les jours où elle est absente chez ses parents. Une semaine, 10 jours, 15 jours, je suis privé. Donc, il n'y a pas de dépense pour elle, ni de nourriture, ni rien. Pourquoi? Il faut que ça soit en contrepartie, vice-versa. C'est réciproque pour les deux, bi-idhnillahi ta'ala. Non. Et pour la boxe, comme a dit le frère, non, c'est pas seulement Cheikh rahimahullah, mais beaucoup. La plupart des savants ont interdit ce sport qui est la boxe. Pourquoi? Car premièrement, c'est dangereux. La personne peut mourir. Et plusieurs boxeurs sont morts sur le ring. Sur le ring, en direct. Et en direct, ils sont filmés, ils sont morts sur le ring. Et d'autres sont morts après être passés par le coma. Et ce qui est aussi, yani, ce qui n'est pas accepté aussi dans ce sport, c'est qu'on frappe sur le visage. On frappe sur le visage. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, a interdit qu'on frappe sur le visage. Il a interdit aussi que on dise qabbah Allah wajhak et qu'on critique le visage, qu'on dise de petits yeux, tu as un grand nez, tu as une grande bouche, tu as ceci. Tout cela, c'est interdit en islam. Car Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, comme vous connaissez le hadith authentique, d'après son image. D'après son image. Donc maintenant, si le frère dit, maintenant, si c'est de la boxe juste entre nous, si c'est juste entre nous, c'est comme si on fait juste un sport et on plaisante, on ne frappe pas au visage, on ne frappe pas fort, juste en. Dans ce cas, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est de frapper, pour faire mal à quelqu'un, pour lui casser les dents, pour lui casser son nez, pour. Non. Donc ça, c'est interdit, bidna ta'ala. Sauf si, comme je viens de dire, si c'est entre nous, on évite tout ce qui est interdit, bidna ta'ala. Non. Pour la tâche après la salat. Quand une personne termine la salat, elle a trouvé une tache sur son vêtement. Elle a trouvé de la souillure, par exemple, sur son vêtement. Ou alors, mieux encore, elle savait qu'il y avait de la souillure sur son vêtement. Et elle s'est dit, je vais l'enlever avant de faire la prière. Ensuite, elle a reçu un coup de téléphone, je ne sais pas, quelque chose d'urgence, etc. Elle a oublié. Et elle a prié. Quand elle a terminé, elle a vu la tache. Elle a dit, Allahu Akbar, je devais l'enlever, je ne l'ai pas enlevé. Ou alors, je viens juste de la remarquer maintenant. Dans ces deux cas, elle ne refait pas la salade. Elle ne refait pas la salade. Mais, supposons maintenant qu'elle ait terminé la salade. Elle a terminé. Non, et ensuite, elle vient de se rappeler qu'elle n'a pas fait les ablutions, le wudu. Est-ce que on va dire, comme dans le premier cas, elle ne refait pas la salade, ou bien on va dire qu'elle doit refaire la salade? Elle doit refaire la salade. Et si quelqu'un va dire, mais Allah Ta'ala a dit dans le Coran, Rabbana, la tu'akhidna, innasina ou akhtana. Allah Azzawajal, pardonnez-nous, ne nous en voulez pas, si quoi? Si innasina, si on a oublié, ou bien on s'est trompé. Et là, j'ai oublié. Dans le premier cas, j'ai oublié la tâche. On a dit, on ne refait pas la salat, ça rentre dans le verset. Dans le deuxième cas, j'ai oublié aussi les ablutions, mais. Subhanallah, je dois refaire la salat. Non. Pourquoi? Parce que les savants disent, c'est quoi la règle? Écoutez bien la règle, il faut l'apprendre. Très importante. Elle vous servira beaucoup. Si l'oubli est dans une chose, qu'il faut faire, c'est pas pardonnable. Mais si l'oubli est dans une chose qu'il faut délaisser, c'est pardonnable. Vous avez compris? Si l'oubli et dans une chose qu'il fallait faire et que j'ai pas faite, c'est pas pardonnable. Ici, le wodo, il fallait faire ou il fallait pas faire? Il fallait faire le wodo. Et je l'ai oublié, donc c'est pas pardonnable. Je refais la salade. La tâche de souillure, c'est une chose qu'il fallait faire ou qu'il fallait enlever? Quelque chose qu'il fallait délaisser. Et j'ai oublié, donc c'est pardonnable. Donc c'est pardonnable. Si quelqu'un va dire cette règle, subhanallah l'adhim, qui est masha'Allah et qui va. Inch'Allah, nous servir, vous servir beaucoup. Où est son hadith? Où est son dalil? Afwan, où est son dalil? Son dalil, le hadith du prophète, les deux hadiths. Dans le premier, il a dit, quiconque a oublié une salat ou s'est endormi, qu'il la fasse quand il se réveille. C'est le hadith authentique. Donc pour la salat, hein, qui est une chose obligatoire, il a dit, si quelqu'un dort, ou bien se réveille, ou bien l'oublie, qu'il la fasse quand il se réveille. Il n'a pas dit Rabbana la tu'akhidna. Il n'a pas cité le verset, il a dit Allah Ta'ala, pardonnez-nous, si on a oublié. Donc, ils ont pris ça de la première partie, ils l'ont prise de ce hadith. Et la deuxième partie, que comme quoi, si c'est quelque chose qu'on devait délaisser, on a oublié, on ne refait pas, c'est le hadith de où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque qui pendant le jeûne a oublié et à manger ou bien bu, qu'il continue. C'est-à-dire qu'il ne refait pas le jour, il continue. Car ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a délaissé. Non. Il a délaissé quoi? Il a délaissé, il a oublié quelque chose qu'il fallait quoi? Qu'il fallait délaisser. Il ne fallait pas manger, il ne fallait pas boire. Donc ici, ce n'est pas comme dans la salle. La salle, il fallait faire. Et ici, il ne fallait pas manger, il ne fallait pas boire. Donc, Inch'Allah Ta'ala, j'espère que vous avez bien compris cette règle et qu'elle est basée sur deux hadiths authentiques. Non. Enfin, la dernière question ici. pour une personne qui s'est mariée sans dot. Sans dot. Ils n'ont pas fixé la dot. Est-ce que le mariage est valable dans le monde? Hein? Qui a dit que le mariage n'était pas valable? Pourquoi? Car le fait de fixer la dot, si vous ne savez pas, apprenez-le, n'est pas une chose obligatoire. N'est pas une chose obligatoire au début du mariage, pendant le contrat. N'est pas une chose obligatoire pendant le contrat. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Non, j'ai oublié le verset. C'est pour ça que maintenant, les savants disent, si quelqu'un divorce sa femme et qu'il avait fixé une dot, donc si ça vient de lui, si ça vient, ça vient d'elle, ou plutôt d'abord, on commence par si ça vient de lui. Si ça vient de lui, il doit laisser la moitié de la dot. La moitié de la dot, à condition qu'elle a été fixée. Ça. Mais maintenant, si elle n'a pas été fixée, comment on compte? Elle n'a pas été fixée. Les savants disent, on va voir cette fille-là, sa sœur par exemple, c'est combien ça a été sa dot. Mais à condition que sa sœur soit dans le même niveau qu'elle. Niveau physique, niveau dîn, niveau yani, intellectuel. Sinon, on dit, on va voir une de ses tantes qui lui ressemble. On va lui dire, toi, c'est combien tu as eu ta dot? Pour donner la même chose yani, à cette personne. Donc si jamais yani, quelqu'un se marie sans fixer sa dot, ce n'est pas grave. Mais après, il décide et yani, il voit sur quelle somme on doit s'accorder. Mais les savants disent, c'est mieux quoi? C'est mieux yani, auparavant de fixer la dot. C'est mieux, ce n'est pas obligatoire. C'est mieux car dans le cas où il y a un divorce, tu sais que tu as la moitié. Alors que dans le cas où tu n'as pas fixé, hein, on ne peut pas savoir c'est quoi la moitié, bi'idhnillahi ta'ala. Tafadhal, inshallah.
نعم، question suivante إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Est-ce qu'il est permis à une sœur de bénéficier d'une aide financière de l'État, entre parenthèses le RSA, alors que cette sœur a décidé d'arrêter de travailler pour pratiquer sa religion et ne compte pas pour le moment rechercher un emploi? Pour être honnête, elle explique son choix personnel lorsqu'elle est convoquée à des rendez-vous. Est-ce que cet argent lui est licite? Barakallahu fikoum. Question suivante. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh, cher. Qu'Allah vous augmente en science et vous accorde le Firdaous, ainsi qu'aux admins pour vos cours. Entre la Hijra et le Hajj, si dans un futur proche, on a la possibilité de n'accomplir que l'un des deux, lequel est prioritaire? Question suivante. Salam alaikum. Je suis une sœur souhaitant passer son permis dans le but de donner des cours d'arabe à mes proches, car la demande est très importante. Ça serait une fois par semaine, car nous habitons loin l'un de l'autre et mon mari ne peut pas me déposer toutes les semaines. Cependant, je suis dans le doute sur la légalité ou non de cela. Est-ce permis? De plus, cela coûte très cher, entre parenthèses, 1600 euros. M'est-il permis également de me le faire financer par les organismes régionaux? Barakallahu fikoum. Question suivante. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. J'aimerais faire une sadaqa en nourriture. Est-ce que les koufars peuvent en bénéficier ou dois-je inviter que les musulmans? Barakallahu fikoum. Question suivante. Salam alaikum à tous. Cher, puisse Allah vous préserver et préserver tous vos proches. Y a-t-il un dalil qui dit si on pourra toucher Allah au paradis ou être touché par lui? Excusez-moi si la question est mauvaise, mais c'est parce que je sais qu'Allah a touché les épaules du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa jazakumullahu khayran ya shaykhana. Tfadal, cheikh.
Une seconde, Inch'Allah, je suis en train de penser à une chose. Une seconde. Naam, j'étais en train de penser à une chose, yani, comme une règle, comme ça, yani, que j'apprenais bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas cité. Vous savez, quand on ne cite pas une chose longtemps, on l'oublie. Je vais essayer de vous dire comme ça une règle. Mais si je me rappelle là, sinon, si je commence et que je ne peux pas la terminer, je laisserai ça, Inch'Allah ta'ala, pour la prochaine fois. Yani, quand une personne divorce, Il y a quatre cas. Il y a quatre cas. Ou bien elle a fixé la dot et elle a consommé le mariage. Ou bien, deuxième cas, elle a fixé la dot et elle n'a pas consommé le mariage et elle a divorcé. Ou bien, elle n'a pas fixé la dot et n'a pas consommé le mariage et elle a divorcé. Ou bien, elle n'a pas consommé la dot et n'a pas aussi consommé le mariage et elle a divorcé. On commence par le premier cas. 1, 1, donc je vais écrire. Mousseline, est-ce que tu peux écrire à ma place? J'ai pas trouvé le signe égal. Tu écris 1, il a fixé la dot et a consommé le mariage. 1, il a fixé la dot et a consommé le mariage. D'ailleurs, il a fixé la dot et a consommé le mariage. Vous vous rappelez la fois passée, je vous ai dit que fixer la dot, ce n'est pas obligatoire. On peut se marier sans fixer la dot. On peut se marier sans fixer la dot. Quand est-ce que le mariage n'est pas valable? Le mariage n'est pas valable s'il n'y a pas la dot. C'est pas si on ne l'a pas fixé. Il y a une grande différence. Il n'y a pas la dot, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se marier sans dot. Et je sais que je ne vais pas donner la dot et elle sait qu'il n'y a pas de dot. Ça, c'est le mariage des fornicateurs. Non. Mais maintenant, on ne l'a pas fixé, mais il y a la dot. Alhamdoulilah. Et le dernier qu'on peut se marier sans fixer la dot, c'est le verset. Lorsque la Ta'ala dit, La junaha alaykoum. Il n'y a pas de péché, la junaïkum, intallaqtum nisa, si vous divorcez les femmes, malam tamassuhunna, sans avoir consommé le mariage, ou tafridu lahunna farida, ou bien leur avoir fixé une dot. Donc il a dit, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mal. Donc, premier cas, il a fixé la dot et a consommé le mariage, dans ce cas, égal, écrit, égal, dot entière. On doit donner à la femme sa dot entière, écrit. 1. Il a fixé la dot et a consommé le mariage égal résultat, c'est-à-dire dot entière. J'attends Inch'Allah Ta'ala. Muslim, tu me suis? Alhamdoulilah. 1. Il a fixé la dot et a consommé le mariage, on donne la dot entière à la femme. Donc, avant de se marier, il lui a dit la dot, c'est par exemple 500 euros. Ensuite, ils ont consommé le mariage et il a divorcé. C'est toujours dans le cas où il divorce. Il a divorcé, il doit lui donner la dot entière. Pourquoi? Car il a consommé le mariage. Consommé, ça veut dire, en parenthèse, il a touché à ses parties intimes. Consommer le mariage, donc il doit donner la dot entière. Deuxième cas, écrit deuxième cas. Il a fixé la date, mais n'a pas consommé le mariage. Afon, j'ai dit la date, la dot. Il a fixé la dot. Et n'a pas consommé le mariage. Égal, netija. Donc, il lui a dit la dot c'est 500 euros, d'accord, je te donne 500. Mais il n'a pas consommé le mariage. Ensuite, il a dit je divorce. Résultat, il lui donne la moitié de la dot. Écrit, égal, un demi dot. Le demi de la dot. Non, Muslim, quand tu écris la première fois, ensuite fais copier-coller pour mettre égal, etc. Il lui donne la moitié de la dot. Donc remarquez avec moi, s'il lui a fixé la dot et n'a pas consommé le mariage, et il a dit je divorce, il doit lui donner la moitié de la dot, sauf si elle se désiste, elle lui dit ne me donne rien, ou bien lui, il se désiste, il lui donne toute la dot. Ça, c'est entre eux. Mais, j'ouvre ici une parenthèse, il lui donne la moitié de la dot. À condition que quoi? Que le divorce vienne de sa part. C'est lui qui a décidé de divorcer. Maintenant, si c'est elle qui dit, je continue pas le mariage, on divorce, il lui donne rien. Il lui donne rien. Ou alors, il a divorcé à cause d'elle. C'est-à-dire, elle lui a caché, par exemple, qu'elle était sourde. Il vient de découvrir qu'elle est sourde. Elle n'entend rien. Ou alors, quand elle parle, elle bégaye. Ou bien, elle est aveugle. Dans ce cas, il a divorcé. C'est pas lui qui a divorcé, c'est elle qui l'a poussé à divorcer. Dans ce cas, il lui donne pas la moitié de la dot. Vous comprenez? Il donne la moitié, c'est dans le cas où tout va bien, il a décidé d'arrêter. Ça. Troisième cas. Il n'a pas fixé la dot. Écrit. Il n'a pas fixé la dot et il a consommé le mariage. Il n'a pas fixé la dot et à consommer le mariage. Il n'a pas fixé la dot et a consommé le mariage. Résultat, c'est comme j'ai dit la fois passée, on doit lui donner l'équivalent, nam, d'une épouse de ce genre. On va voir par exemple sa sœur qui lui ressemble, nam, de combien était sa dot. Bien sûr, si celle-là qui vient de divorcer, si elle est dans le din, on voit aussi l'autre, si elle était, il faut qu'elle soit aussi dans le din. Pour que yani, la dot soit à peu près équivalente. Ou bien on va voir sa mère, ses tantes, ses cousines. Yani, une qui a yani, un statut proche d'elle et qui a un cas qui lui ressemble. On va voir c'était combien son mariage. C'était combien sa dot. Et dans ce cas, il lui donne donc l'équivalence. Écrit résultat, il lui donne l'équivalence de la dot disons, d'une proche. Il lui donne l'équivalence de la dot d'une proche qui lui ressemble, elle est dans le même cas, d'une proche qui a le même statut qu'elle. D'une proche, il lui donne donc l'équivalence de la dot d'une proche qui a un statut qui lui ressemble. On doit lui donner l'équivalence de la dot d'une proche qui a le statut qu'elle. Voilà, qui a le même statut qu'elle. Quatrième cas, il n'a pas fixé la dot. Il n'a pas consommé le mariage. Il n'a pas fixé la dot et il n'a pas consommé le mariage. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Ici, peut-être, il n'a pas fixé la dot, n'a pas consommé. Ici, le résultat, peut-être, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, premièrement, j'ai pas fixé la dot. Deuxièmement, j'ai pas consommé le mariage. J'ai divorcé, khlas. Elle va chez elle et moi, je vais me marier. J'ai rien, il n'y a rien entre nous. Alors que c'est faux, c'est pas vrai. Le verset est clair. Il a dit Mata'un bil ma'ruf, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il doit lui donner une jouissance en allocation. C'est-à-dire il doit lui donner, lui acheter quelque chose qui l'a réjoui. Quelque chose qui l'a réjoui. Comme une bague, comme un habit, comme un collier, comme un bracelet. Oh, ça dépend de ses moyens. Ça dépend de ses moyens à lui. Il doit lui acheter quelque chose yani, qui la réjouit pour que yani, ça compense, comme j'ai dit une fois, et ça pense yani, sa blessure. Sa blessure, car yani, il ne s'est pas marié, il l'a laissé comme ça, les gens vont parler d'elle, il a divorcé. Et aussi pourquoi? Parce qu'il n'avait pas fixé la dot. Donc dans ce cas, tu écris voilà, on lui doit lui acheter quelque chose qui lui plaît, qui la réjouit. Non, ce n'est pas obligé ici de lui demander qu'est-ce que je t'achète. S'il veut, il dit, et je voudrais faire un cadeau, qu'est-ce que tu veux? S'il veut, sinon, ce n'est pas une condition. Il va dans un magasin, il achète des choses, yani, ne serait-ce que s'il n'a rien, ne serait-ce qu'une boîte de gâteau ou des chocolats, je ne sais pas quoi. Il lui achète une chose, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Non. Je vais vous citer le verset qui dit que si jamais Annie n'a pas fixé et qu'il a divorcé, qu'il lui achète quelque chose, une seconde, je vais chercher où se trouve le verset. Une seconde, je vais chercher où se trouve le verset. Une seconde. Donc le verset, je le lis, Al-Baqarah, pour ceux qui veulent chercher son explication en français, Al-Baqarah 236. La gunaha alaykoum. Vous n'avez pas de péché, pas de mal. In talaqtum nisa. Si vous divorcez les femmes, malam tamassuhunna, sans avoir consommé le mariage. Aw tafridu lahunna farida. Ni sans avoir fixé la dot. Wa matti'uhunna. Matti'uhunna, faites-leur une réjouissance. Une réjouissance. Al-Mousi'i qadruhu. D'après les moyens que vous savez, si vous avez beaucoup de moyens, ou ala al-muqtiri qadruhu, ou bien yani, une petite chose, si vous avez peu de moyens, mata'an bil ma'ruf, réjouissance, yani, bil ma'ruf, yani, dans vos limites, haqqan, obligatoire ala al-muhsinin, pour ceux qui sont bienfaisants, haqqan, obligatoire. Pour ceux qui sont bienfaisants. Dans un autre verset, il a dit, haqqan, obligatoire, al-muttaqin, pour ceux qui sont pieux. Non, ce n'est pas comme celui qui divorce, il dit, là c'est terminé, je m'en fous. C'est pour ça que Cheikh l'Islam, rahimahoullah, a dit que, il a dit dans tout divorce, sans exception, s'il divorce, il doit lui acheter quelque chose, bi'idhnillahi ta'ala. Maintenant, on revient à la première question, inshallah ta'ala. La personne qui a dit que, est-ce que son argent était licite? Est-ce que c'était permis de prendre, yani, de prendre une aide de l'État? À vrai dire, je n'ai pas bien compris la question quand elle a dit que elle leur expliquait pendant le rendez-vous ICA. Je n'ai pas bien compris ça. Mais ce que je veux dire, pour que cet argent que tu perçois soit légal, il faudrait que l'État, yani, sache que, yani, dans quelles conditions tu es. Ce n'est pas, par exemple, il croit que tu travailles alors que tu ne travailles pas. Ou il croit que tu es en train de chercher le travail alors que toi, jamais tu ne cherches. Ou. Mais dans le cas où ils savent ta position, et yani, ils sont d'accord et ils te donnent de l'argent. Et ils savent exactement, tu ne leur as rien menti. Malgré cela, ils te donnent de l'argent, ça c'est chdel. C'est eux qui veulent t'aider, ils sont libres. L'essentiel, c'est quoi? Je ne les ai pas trompés, ni je leur ai menti. Ni je leur ai menti. Non. Donc, les détails, je ne les connais pas. Deuxièmement, pour la hijra, entre la hijra et le hajj, je crois, Wallah Azza wa Jal a'lam, que la hijra est plus importante. Car étant dans la hijra, je viens de sauver ma peau de l'enfer, et c'est ensuite facile d'un pays musulman d'aller vers le hajj. C'est très facile d'un pays musulman, même si ça demande yani, de l'argent, même si c'est assez cher. Mais c'est yani, facile, bi-idhnillahi, subhanahu wa ta'ala. Non. Mais quand je dis, Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est dans le cas où khlas, le hajj yani, n'est pas arrivé, que j'ai les moyens. Maintenant, si c'est le moment du hajj, l'argent est devant moi et yani, c'est très facile d'acheter le billet, etc. Là aussi, je ne laisse pas passer l'occasion, car le prophète a dit que, yani, ajilu, il a dit, hâtez-vous, précipitez-vous pour le hajj, avant que yani, une embûche ne vienne. Comme ça a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique. Sauf, comme je dis tout à l'heure, maintenant, si le hajj est loin, je dois commencer par la hijra, et de là, bah, inshallah ta'ala, je fais le hajj. Naam. Pour le permis, la personne a cité entre parenthèses, j'ai écrit ici, même si c'est l'organisme régional qui m'aide. Je ne sais pas ce que ça veut dire ici, organisme régional, car ce sont des choses spéciales à la France, donc que je ne pourrais connaître. Et le moi-même, je dis, le fait de conduire, il y a une différence entre le permis de conduire et le fait de conduire. Le fait de conduire la voiture n'est pas interdit. Car, comme a dit Cheikh Al-Albani, si le fait de conduire une voiture est interdit, alors aussi il est interdit de conduire un cheval et de conduire le chameau. J'ai entendu le prophète sallam, les femmes conduisaient le chameau, le cheval, l'âne, etc. Maintenant, l'âne, le cheval, c'est la voiture et c'est la Mercedes. Donc, conduire en lui-même n'est pas interdit. Reste que si elle va passer le permis, c'est maintenant un papier nécessaire. On ne peut pas conduire sans permis. C'est interdit, on va à la prison. Reste, dans quelles conditions je vais passer ce permis? Est-ce que je serai en tête à tête avec celui qui m'apprend? Est-ce qu'il y a des fitnas? Ce sont des choses que c'est vous qui connaissez. Vous êtes là-bas, je ne sais pas comment ça se passe quand on passe le permis. Je ne sais pas s'il y a des interdits que je ne connais pas. Mais je dis pour celle qui a peur du tête à tête avec l'homme, au moins qu'elle prenne avec elle une sœur, au moins qu'elle prenne avec elle sa mère, sa sœur, sa fille, si elle ne peut pas prendre un mahram. Au moins qu'il n'y ait pas de tête à tête. L'essentiel, ce n'est pas un mahram, car on n'est pas en voyage. Je ne vais pas voyager avec cet homme qui va m'apprendre. Mais je ne dois pas rester en tête à tête avec lui. Donc il faut avoir avec nous au moins une femme. Naam. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Pour la sadaqa, est-ce que je peux la donner de la sadaqa en nourriture aux kuffars? Les savants disent, on peut donner aux kuffars, mais à condition que yani, les musulmans ne sont pas dans la nécessité. S'il y a les musulmans qui sont nécessiteux, on commence par les musulmans. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa la yakul ta'amaka illa taqi. Il a dit la tu sahib illa mu'minan. Ne tiens compagnie, ne prends d'amis qu'un pieux. Et pour une femme, qu'une pieuse. Car si quelqu'un est mashallah dans le din et il prend comme compagnie un ami, quelqu'un qui est pervers, classe, c'est la déroute. Là, petit à petit, il va t'emmener vers son chemin. Son chemin est beaucoup plus attirant que le tien. Quand tu parles de din, tu vois, c'est pas très intéressant. Mais lui, il parle de dancing, il parle de femmes, de boissons, de soirées, de je ne sais pas quoi. C'est plus attirant. Donc, il faut éviter. Le hadith a dit, ne prends comme ami qu'un pieux. Voilà, ya'kul. Voilà, ya'kul ta'amaka. Ou bien, voilà, ya'kul nahi. Voilà, ya'kul ta'amaka. Il est terrible. Il ne doit manger. Hadith avait dit, la tout sahib, il est mu'minan. Ne tient en compagnie qu'un croyant. Non, un croyant, pas un kafir. Un croyant. Et le croyant, ça peut être aussi dans le sens de plus que musulman. Il y a le musulman, il y a le croyant. Ensuite, il y a le bienfaisant. Et il a dit, ne doit pas manger, ton manger qu'un pieux. Ici, les savants disent, manger ton manger, c'est surtout dans les fêtes de mariage, par exemple. On ne doit pas inviter les pervers et les clochards, etc. Un mariage de dîn. Mais j'invite seulement les gens de dîn. J'invite les gens de dîn et les gens qui sont bien. Et le dernier qu'on peut, maintenant j'ai dit, on doit commencer par les musulmans, la sadara, pas le kofar. Quel est le dernier qu'on peut donner à manger à un kafir? Par exemple, sadara. Le verset. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ miskinan wa yatiman wa asira. Vous connaissez tous le verset sur l'insan. Il a dit, il donne à manger à miskinan, un pauvre, wa yatiman, l'orphelin, wa asira. Asira, c'est le prisonnier. Et est-ce qu'en islam, on peut prendre un musulman comme prisonnier? C'est pas possible. Si c'est un prisonnier, donc c'est un kafir. Il y a eu la guerre sainte, et je l'ai pris. Et Allah Ta'ala a dit, wa yut'imuna at-ta'am. Dit et il donne en nourriture à ceux-là. Donc, c'est le verset qui prouve qu'on peut donner à manger à un kafir. Sauf, comme a dit Cheikh Ibn Othaymine, si le kafir à qui on veut donner à manger est vraiment yani, dans un point où si on ne lui donne pas, il va mourir. Classe, vraiment, ça fait des jours qu'il n'a pas mangé, il va mourir. Celui-là, je dois commencer par lui, même si c'est un kafir. À condition que ce ne soit pas quelqu'un qui est en guerre avec les musulmans. Non, pas quelqu'un de l'armée. Ça y est. La dernière question, est-ce qu'on peut toucher Allah subhanahu wa ta'ala au paradis? Je dis, je ne connais ni un verset ni un hadith en ce sens. Non, c'est pour ça que, ne connaissant pas un hadith ou un verset en ce sens, je ne peux dire ni oui ni non. Car si je dis non, on ne peut pas le toucher, il ne nous touche pas, quelqu'un peut dire aussi où est la preuve? Où est la preuve? Pour dire non, il faut aussi une preuve, ça. Il faut pas une preuve seulement pour dire oui. Il faut aussi une preuve quand on dit non dans la charia. Le délil, c'est le verset. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Et ils ont dit quoi? Ne va rentrer au paradis que celui qui est juif ou bien chrétien. Entre parenthèses, là, a dit, ce sont leurs souhaits, qui camion. Ensuite, il a dit, donnez vos preuves si vous êtes véridiques. Il a dit ici, donnez vos preuves. Pourquoi? Pour ce que vous avez avancé, ce que vous avez retiré. Ce que vous avez retiré, vous avez dit non. Ils n'ont pas dit qu'ils vont rentrer au paradis. Ils vont dire, ne vont pas rentrer au paradis, yani les musulmans. Ici, le Coran a dit, dans le hadith pour cette négation. Tu viens de dire, ne va rentrer au paradis que le chrétien et le juif. Donc tu veux dire, ne va pas rentrer au paradis le musulman. Donne une preuve pour le non et la négation ici. Donc, dans la charia, même quand on dit non, il faut avoir une preuve. Il faut se taire, il faut dire Allahu alam. Ni je dis oui, ni je dis non. Donc c'est la même chose ici pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que je peux dire, c'est que les gens le verront. Ça, c'est le Coran et les hadiths authentiques. Que Allah ta'ala sera vue, naam, dans le paradis seulement par les croyants, et dans le jour de la résurrection, lorsqu'il viendra, naam, par les croyants et les hypocrites, pas les kofars. Les kofars, ce qu'ils verront, ne le verront pas dans sa vraie image, mais ils le verront, comme disent les savants, adab, naam, ru'yat adab. Ils verront une image qui en elle-même, c'est déjà un supplice, un châtiment. Et je dis aussi que, il y a un sourd aussi, il y a un sourd où les musulmans iront une fois par semaine, etc., pour voir Allah Azzawajal et le rencontrer. Mais dire le toucher ou pas le toucher, ça, Allah Azzawajal a'lam. Allah Azzawajal a'lam. Voilà, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui, on va arrêter ici. Barakallahu fikoum, jazakumullahu khairan. On va se rencontrer, inshallah ta'ala, samedi. Attendez, aujourd'hui, nous sommes mercredi ou la samedi? Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Amin. On est mercredi. Alhamdoulilah. Donc, on va se rencontrer, bi'idni samedi, bi'idnillahi ta'ala. Naam. Je reviens sur le hadith que je viens de citer tout dernièrement, sur le sourd du paradis. Je viens de nous rappeler que ce n'est pas, ils vont aller à ce sourd pour rencontrer Allah, mais ils vont aller à ce sourd pour se rencontrer, etc. Et quand ils reviendront dans un physique vraiment beau, au point où leurs épouses leur diront, Allah, où étiez-vous? Vous êtes devenus plus beaux qu'auparavant. Et eux-mêmes, ils vont dire à leurs épouses, vous-même, vous êtes devenus plus belles que vous ne l'étiez. Quant à voir Allah subhanahu wa ta'ala, d'une façon générale, tous les gens du paradis le verront. Mais, bien sûr, il y en a qui le voient, comme disent les savants, une fois par jour. Il y en a qui le voient matin et soir. Il y en a qui le voient seulement une fois par an. Il y en a, d'après, on n'est pas, on est tous, inchallah, musulmans, mais on n'a pas tous le même degré. Peut-être moi, maintenant, je vais dormir. Il y a quelqu'un maintenant qui va prier 1 heure ou là pendant la nuit. Peut-être demain, moi, je vais manger. Il y a quelqu'un qui va jeûner demain, etc. Donc, on n'est pas au même niveau. Ici, le hadith de Jabir, de Jarir ibn Abdillah, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, innakum satarawna rabbakum ayanan. Vous verrez Allah subhanahu wa ta'ala avec vos propres yeux. Et dans une autre version, on était assis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu, il a jeté un coup d'œil sur la lune. Elle était en plein. Comment on dit, elle est en plein lune. Il a dit, Innakum vous verrez Allah Azza wa Jalla quand vous voyez maintenant la lune. La sans que ça vous fasse mal, le fait de la voir, et sans vous regrouper. Sans vous regrouper. Chacun peut voir la lune sans qu'on aille se regrouper dans un endroit pour la voir. Moi, je vois de ma maison, l'autre il voit de sa maison. Il a dit, Fainistata'tum. Mais si vous pouvez, inshallah ta'ala, faire de sorte que vous faites toujours une salat avant Tolo Shems, avant le lever du soleil, c'est-à-dire salat Sobh, et une salat avant le coucher du soleil, c'est-à-dire salat al-Asr, alors faites-le. Ça veut dire que celui qui veut voir Allah subhanahu wa ta'ala, comme on voit la lune en pleine lune, alors qu'il soit soucieux de ses salats. Ce n'est pas le pervers qui va voir Allah Ta'ala au Qiyamah. Ce n'est pas celui qui passe son temps à je ne sais pas quoi faire, il va dire au Qiyamah, je vais voir Allah. Mais, comme a dit ici le hadith, il faut être très soucieux de ces salats pour les faire en leur heure, en leur moment. Et surtout, surtout, salat al-Subh et salat al-Asr, comme vous savez. Salat al-Subh et salat al-Asr. Et le prophète a dit, Men salla al-bardain dakhala al-Jannah. Celui qui fait la prière des Bardain ira au paradis. On a dit c'est quoi le Bardain? Il a dit Salat al-Subh et Salat al-Asr. Très important. Salat al-Asr, Salat al-Subh, Salat al-Asr. Salam alaykoum, si tu as accès au frère musulman ou à Chir, dis-leur que tu es un frère trésorier de l'association. On va prendre en charge l'opération du petit fille algérienne de Blida, d'où Chir vient. Donc c'est tout juste pour m'assurer de la véracité de cette histoire auprès de Chir. S'il te plaît, une fille de 4 ans, mal formé de naissance, hospitalisé à Blida et opéré déjà une fois en Saoudi. Voilà qui est passé à Mousseline ou Cheikh. Allahu alam. Non, pour cette fille, Allahu alam, Peut-être, hein, j'ai comme je crois au Allah avoir entendu cette histoire, mais je ne suis pas très sûr. Je ne sais pas si j'ai lu ça sur un journal ou je ne sais pas où j'ai lu ça. Peut-être ça fait longtemps. Allah, mais si le frère Punchallah, il m'envoie les coordonnées. Il m'envoie les coordonnées de cette fille, etc. pour que yani, je lui rende la réponse, Inch'Allah Ta'ala, donnez-lui mon mail pour qu'il m'écrive, Inch'Allah Ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته